Silence en cabine, je vous prie.
Ah, je leur fais dire.
Si tu veux.
Oui, il y a un.
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le 21 avril 2012. Nos programmes pour cet après-midi, donc à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae, avec, alors c'est Jeannot Dead, hein, je lis bien. Et à 17h, Éphémère 7 l'antenne à Booster FM sur les 80,1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la causerie dépolitisée que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Et ça le fait assez bien, de toute façon. On voit que Kutcherberg a bien pris ses leçons auprès de son maître, auprès d'un de ses maîtres du film d'action, à savoir le très célèbre et l'inénarrable Michael Bay. Voilà, donc,
Battleship.
Battleship.
G8, H7.
C'est un film, du dimanche soir, quoi. Donc, à l'instar du Transformer 2 qui sera diffusé demain soir à la télé.
Radio Éphémère présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous profitez de ce temps magnifique que nous avons. J'espère aussi que vous avez beaucoup profité de la partie entre moi et Ultimatum pendant la chronique.
La bataille touchée coulée.
Thomas m'a eu, mais vraiment de peu. Hein.
Oui, d'ailleurs, on a les images,
on a le finish. Sont là en guise d'arbitre pour cette partie, si je puis dire. Sébastien, Laurent, bonjour.
Bonjour.
Rafi, bonjour.
Et bonjour.
Et lui, il a aimé Battleship.
Et moi, j'ai aimé Battleship, oui. J'assume. Ouais.
En même temps, en disant off qu'il aimait les McBaguettes aussi.
Et j'aime les McBaguettes. Je l'ai goûté hier pour la première fois et franchement, bon, c'est très moutardé quand même. Hein.
Bon, toute une éducation à refaire. On va se prendre des insultes du CSA si jamais vous me faites encore la pub.
En tout cas, Xavier, tu fais une super intro parce que c'est la première fois qu'on prononce correctement le nom de Sébastien quand même.
Et ça ne fait que la 7e ou 8e
fois qu'on le reçoit. Les 3 premières fois que tu m'as envoyé des gens au Parc des Expos.
Non, à Balma.
À Balma, c'est ça, voilà.
À Balma.
Exactement. Donc n'oubliez pas, ce week-end, la Japan Expo à Balma.
C'est donc le week-end prochain, le TGS édition au Hanami, et c'est donc à la Beige, Agora ou Diagora, je ne sais plus.
Les deux.
Alors, est-ce que vous aurez assez de place?
Oui, là, je pense que oui, quand même. Enfin, si on l'a pas, c'est qu'on sera très surpris. On sera très content et très riche. Mais normalement, on a assez de place. Là.
Voilà. Donc, les organisateurs du Toulouse Game Show nous font l'honneur, le plaisir, l'avantage, tout ce que vous voulez, la sympathie et la bonne.
On part de mariage, ce qu'il fait là.
Non, mais on a reçu le chèque, c'est pour ça qu'on est là. Hein.
Bref, ils sont là parmi nous. Nous allons parler bien évidemment de plein de choses. Il y a d'autres choses dont on n'a pas le droit de parler, s'il vous plaît.
Du McBaguette.
Voilà. On ne parlera pas non plus du match éliminatoire comptant pour la sélection aux Jeux Olympiques de waterpolo féminin qui aura lieu demain.
Non, surtout qu'il n'y en a pas, quoi.
Si, il y en a un.
Et entre deux pays, si on le dit, la commission électorale va me tomber sur le gras.
Tant que tu nous lances sur les Jeux Olympiques, moi je suis très déçu parce qu'il paraît que les tenues vestimentaires obligatoires du beach volley, maintenant ils vont mettre des shorts à la place des culottes.
Ouais, c'est vrai.
C'est dégueulasse.
Oui, oui. C'est absolument dégueulasse. Moi je me souviens quand même des JO à Athènes où on avait les plans très avantageux et tout. Mmh. C'était.
En tout cas, c'est l'industrie du jeu vidéo qui va être en pure perte aussi, avec toutes les adaptations de beach volley.
De volley. Oui, effectivement, les jeux de volley sont très connus et très prisés, évidemment.
Dead or Alive.
Et oui, Dead or Alive.
C'est n'importe quoi.
Bah, c'est du jeu de volet.
Il y a que toi qui achètes ça.
Non, j'ai pas acheté. Mais vous arrivez à suivre, tant mieux pour vous. Ça va être comme ça pendant toute l'émission. Bref, bonjour et bienvenue. C'est donc le supplément week-end numéro 314. On va parler du Toulouse Game Show édition Wanami qui en est à sa troisième, ouais. Et cinquième grand TGS l'année prochaine.
Sixième même.
Mais c'est bien, sixième. On va dire, l'année prochaine, je suis sûr que le prochain rendez-vous là, on est calé. Tu auras mon nom, la date, le lieu, l'édition, on aura tout la prochaine.
Et le plus dur, ça sera d'éviter de parler donc des élections générales qui auront lieu donc le 30 août 2013 au Japon. Voilà. On va y arriver. Bref, tout cela pour vous dire que il y en a qui sont trop pressés d'ouvrir les cadeaux, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet avant l'heure. Avant minuit le 25 décembre ou avant 20h demain, non, on n'en parlera pas, non, pitié.
Alors, oui, tu parles des cadeaux, donc nous allons quand même dire aujourd'hui que des auditeurs peuvent nous appeler.
Une tentative de perche, on l'a pas écrite.
Voilà, ils peuvent nous appeler pour gagner des passes deux jours pour le TGS Wanami, puisque Raffi et Sébastien ici présents nous ont fait le plaisir de nous mettre à disposition 5 passes à gagner. Donc pour gagner, c'est très simple, vous appelez la radio 05 61 580 580 pendant la durée du supplément week-end et voilà, vous répondez à un petit quiz qui est pour l'instant tenu secret et puis vous verrez
vous
en sortez.
Voilà. Pas de suite, on vous fera signe. Laissez-nous faire l'intro quand même avant tout. On a quelques news assez intéressantes, l'une concerne le monde lui-même. Pas le journal, non, l'avenir de l'humanité elle-même, puisque Dick Clark est mort d'un cancer cette semaine. Dick Clark, célèbre présentateur américain du sport, tu connais peut-être un petit peu sa bio, puisque c'est lui qui a popularisé quand même le rock à la télévision américaine.
Entre autres,
mais c'est surtout lui qui présentait le grand événement qui a lieu tous les ans à Times Square.
American Bandstand, je crois, hein, c'est ça quoi, le nom de son émission, et c'est une émission qui a vu passer, on va dire, tout ce que la pop musique et la rock musique comptent de plus sacré depuis le début. À savoir Elvis et ensuite dans les années 60 bien sûr les artistes américains, mais également tous les artistes anglais du British Blues Boom qui sont passés par cette émission. Bref, c'est un type qui a fait découvrir pas mal de choses et qui a profité du média télé hein, pour imposer ses artistes, enfin pour les imposer, c'est-à-dire pour montrer à un très grand nombre de téléspectateurs qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça valait. Et c'était un petit peu plus détendu que la concurrence à l'époque. Il y en avait un autre, je me souviens pas son nom. Quoi.
Je crois qu'il est devenu président des États-Unis. C'était le premier à avoir passé un groupe de rock. C'était Ronald Reagan.
Johnny Carson, voilà quoi. C'est Johnny Carson, donc qui à l'époque était le show le plus regardé. Et chez Johnny Carson, par contre, il fallait montrer patte blanche et tout. On se rappelle la fameuse séquence.
Patte blanche, c'était horrible.
Oui, non. La fameuse
séquence. C'est un pays en pleine ségrégation. Non,
c'est la fameuse séquence de Elvis qui chante Hound Dog et il y a un petit caniche qui est monté sur un petit trépied comme ça, quoi. Et le caniche est habillé de façon tout à fait ridicule. Elvis également est assez ridicule, on va dire, dans son accoutrement, mais ça, c'était assez général de toute façon. Hein, quand on regarde rétrospectivement, quoi, c'est vrai qu'on se dit, mec. Qu'est-ce qu'il fout habillé dans des fringues pareilles? Et Johnny Carson était vraiment nettement plus restrictif. Pour lui, Elvis n'était pas un artiste, par exemple, et tout, quoi. Pour lui, c'était plus du cirque, quoi. Donc, il fallait tout ce petit truc-là. Et Dick Clark, par contre, lui, était nettement plus respectueux des artistes, respectueux des musiques nouvelles. C'est lui qui a également ouvert la porte, on va dire, aux artistes black. Hein, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Bref, c'est quand même un grand monsieur de la télé, il n'y a pas de problème. La télé américaine.
Voilà, il nous a quittés. C'était lui qui présentait depuis 71 le grand show du Nouvel An qui était filmé en direct de Times Square. C'est lui qui a instauré la fameuse boule qui descend avec le décompte. Donc ça veut dire que s'il n'est plus là pour faire un nouvel an en 2013, il n'y aura pas 2013. C'est la fin du monde. C'est un signe.
C'est les Mayas qui ont gagné.
Par contre, moi, je voudrais juste un truc.
Mais je crois qu'ils ont déjà un présentateur.
Par rapport à ça, il y a deux choses. Donc déjà, n'ayez pas peur, le monde est sauvé, puisque maintenant, à la place des émissions de Dick Clark, nous avons la Star Academy. Et deuxième chose, je trouve que du sport, il a, dans sa voix, là, je l'entends en retour, là, je trouve qu'il a un petit côté Philippe Manœuvre quand il parle, non?
Ah bon?
Tu restes à écouter l'antenne de 14 à 15h, tu vas voir que Philippe Manœuvre, il peut, attention, hein, l'histoire de la des grandes cultures musicales.
Il manque les lunettes de soleil.
C'est nickel.
Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié mes lunettes de soleil.
On va d'ailleurs du sport s'est planté la semaine dernière.
Oui, ah bah, comme d'habitude. Parce que on a des auditeurs qui nous reprennent dans les messages.
Ils ont raison, il faut le faire.
Donc ils peuvent nous écrire en se connectant sur le site de l'émission supplémentweekend.fr et il se trouve que un auditeur nous a
David Stabler donc nous a écrit et a remis en place donc du sport et il dit la première adaptation du roman Too Great a été réalisée par Henry Hathaway et non John Ford.
Ah ouais.
Donc d'habitude c'est Madame du Sport qui appelle en catastrophe et tout. Ouais. C'est pour ça qu'on laisse la ligne.
Non mais elle est pas très férée du western. Régie, alors c'est
la
pas
ligne
la peine,
de régie
quoi.
Ouverte parce que quand du sport se plante sur un quatrième rôle d'une série hollandaise etc. Il est de vaisselle pour le week-end hein, donc attention. Hein. C'est chaud. Autre chose, par contre, beaucoup moins rigolote de ce côté-là, à savoir que ce week-end a lieu en ce moment le procès d'une chaîne de télé en Tunisie, la chaîne privée Nesma, parce qu'ils avaient diffusé le Persepolis de Marjane Satrapi, qui a été traduit, doublé par une association sur place pour le diffuser. Et donc, les partis politiques proches, je vais dire, de certains mouvements religieux ont poursuivi la chaîne de télé, la présidente de l'association en question pour atteinte aux valeurs sacrées, atteinte aux bonnes mœurs et trouble à l'ordre public. Bon, faut dire que le PDG Nabil Karoui, PDG de cette chaîne, est pas franchement en odeur de sainteté. Il a été le premier à avoir lancé une chaîne de télé privée en Tunisie en 2007, donc il était pote à Ben Ali. Donc il y en a qui disent que c'est une manière aussi de continuer la purge du parti tout en flattant certaines opinions politiques. Ça c'est une affaire qui est à suivre. En tout cas, Marjane Satrapi et Vincent Paronneau ont été cités hein, par le tribunal à comparaître et tout, donc eux aussi sont susceptibles d'être jugés par contumace. Donc c'est je sais, j'ai jeté un froid là dessus. Dites-moi un truc drôle.
Oui,
Fruit.
Oui, on a beaucoup de voilà, de répondre à nous.
Donc voilà, c'est une info qui est sur le site Actua BD. Donc bien évidemment, pour plus d'informations, allez nous rejoindre sur actuabd.com et on salue nos partenaires de ce côté-là. Au TGS, vous avez des invités, vous avez du monde.
Ça nous arrive. Ouais.
Ça vous arrive. Et avant même que l'on parle un petit peu de ses invités et tout ça, au départ, l'édition au Hanami était une correspondance avec le Nouvel An japonais, donc avec
ça
la
toujours.
Fête. Avec la fête
pas
des Nouvel An,
le printemps.
Avec le printemps, la fête du Hanami au Japon.
Nouvel An japonais, je crois que c'est le même que le nôtre, en fait, hein, je crois.
Oui,
civil.
Je pense aussi, oui.
Oui.
Je crois que
c'est...
Voilà.
Allez,
niveau
tiens,
civil.
Première
oui.
erreur.
Je note. Donc on va recevoir un mail de monsieur. Je ne sais pas qui.
Excellente question.
Voilà. Voilà, sinon, mais sinon, voilà, t'as essayé de lancer une perche, mais c'est tombé à plat. Oui, ouais. Donc, à l'origine, le TGS Hanami était une édition petite sœur, plus orientée culture japonaise.
Oui. Et alors, je comprends la question, en fait, cachée derrière ça, c'est, est-ce qu'on dénature pas le TGS Hanami avec cette édition qui s'annonce, on va dire, plus classique,
SF.
Avec beaucoup plus de SF? Alors, je m'attendais à la question. Très clairement. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je pense pas, parce que je pense que le concept du Hanami, c'est ce qu'on a voulu faire à la base, c'était une fête, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est une fête qui se passe au printemps. On a des liens, bien évidemment, avec le Japon, puisque de toute façon le TGS a été fait à la base pour tout ce qui est côté manga, jeux vidéo. Alors, on prétend pas être des spécialistes culturels avec des doctorats, voilà.
Non, non.
On espère apporter à ceux qui demandent, voilà, ce que les gens attendent d'un salon comme le nôtre. On essaie d'apporter une réponse. On essaie d'intégrer évidemment des choses culturelles. On s'est aperçu que sur les deux premières éditions, ça prenait comprenait pas. C'est-à-dire que on avait des gens qui étaient qui venaient quand même, on va dire par fidélité, et je les en remercie. Mais on n'a pas encore. Alors, je pense qu'on l'aura jamais cette image vraiment culturelle très poussée en fait. Donc, plutôt que de tout stopper, puisqu'on s'est posé la question hein, d'annuler l'édition TGSO Anami 2012, eh bien, on a dit qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, on a dit, bon, on garde le principe, la fête, on garde les thématiques manga, jeux vidéo, mais on remet des choses, des clés. Qui ont fait du TGS classique un succès, mais attention, je tiens à dire qu'on va pas se, on va pas se dénaturer. J'entends par là, par exemple, les thématiques qu'on a sur le TGS Onami sont les mêmes qu'au TGS Onami, c'est juste l'édition de printemps, mais c'est, ce sont les mêmes thématiques. Vous ne verrez jamais au TGS comme dans d'autres festivals, j'ai pu le voir, du catch, par exemple. Voilà, enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses qui
me
touchent.
Ou alors déguisé en Sentai, alors.
Oui, enfin, même pas, tu vois, je veux dire, c'est nul, quoi. Donc, pardon à tous les amateurs de catch, mais j'aime pas ça, c'est nul.
Alors. Éditeur lillois, roubaisien, si tu nous écoutes.
Oui, voilà. Hein? Bon.
Mais par contre, est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de place pour les associations culturelles? C'est-à-dire, l'an dernier, on avait reçu en direct Charles-Louis Auriou et Laurence Auriou, qui sont de la Fédération française, de la FFKT qui était venu faire des démonstrations assez suivies quand même.
Il y aura au minimum des animations identiques, enfin identiques, mais autant en tout cas en termes de quantité et de qualité qu'il y a eu sur les précédentes TGS Onami. On a agrandi le salon puisque pour la première fois le TGS Onami se passe en intégralité sur Diagora, puisqu'en fait l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait pris uniquement nous à Agora, et il y avait un salon voyager au Japon qui a été perturbé suite aux événements qui sont passés au Japon. Mais cette année, donc vraiment, on n'a pas levé ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore tout un pôle qui s'appelle d'ailleurs le pôle Ohanami, en fait, qui sera dans le salon, et des salles dédiées vraiment à toute la partie culturelle, avec des expos, des rencontres avec des auteurs. Je vous laisse, alors j'ai plus les noms tout à fait en tête, mais je sais qu'il y a Vincent Ricci, il y a Philippe Pelletier qui viennent faire des conférences et rencontrer leur public, dédicacer et rencontrer, enfin expliquer aux gens, notamment Philippe Pelletier qui fera une conférence sur les idées reçues qu'on peut avoir au niveau du Japon avant et après Fukushima, donc ça, je pense que ça va être assez intéressant. Mais voilà, ça suffisait pas. Donc techniquement, moi j'aime mon métier. Hein. Mon métier, c'est de faire plaisir aux gens en faisant des salons sur les jeux vidéo, les mangas. Soit on arrêtait, net, hein, puisque l'année dernière on a encore perdu 11 000 euros sur l'édition de TGS Onami. Soit on lui donnait un nouveau souffle en essayant de faire venir plus de monde, qui dérangera pas le public qui était venu déjà à Onami, puisqu'il y aura exactement la même chose, mais avec du contenu supplémentaire et qui reste dans la lignée du TGS.
Donc c'est plus d'ampleur.
Voilà.
Est-ce que à votre échelle, vous, de vu de haut, que vous êtes les organisateurs de l'événement, est-ce que vous voyez que c'est le même public qui vient aux deux éditions, mais en quantité plus restreinte au Onami, ou alors c'est deux publics complètement différents que vous voyez arriver pour l'édition Petite Sœur en avril?
Moi, je pense que c'est le même public. Après, l'édition Onami attire moins de monde. Bon. Les deux premières éditions n'avaient pas le même impact au niveau du public par rapport au nombre d'invités, à la qualité des intervenants. Pas pour dire qu'ils étaient moins bien, mais c'est vrai que sur un TGS, on peut se permettre de faire venir, comme l'année dernière, Yu Suzuki, Michel Ancel. Enfin, donc du coup, c'est vrai que ça parle beaucoup plus au grand public. Sur du TGS Onami, on avait jusqu'à présent fait venir des gens qui parlaient à moins de monde, mais que je veux dire, les gens qui sont venus au TGS Onami vous diront pas qu'ils ont passé un mauvais week-end hein, l'année dernière. Mais c'est vrai que c'était moins. Voilà, c'était moins. On va dire que le menu était moins copieux. Voilà, mais ils ont bien mangé quand même.
Sinon, c'est les mêmes gens qui reviennent.
Moi, globalement, enfin moi, de ce que j'ai pu remarquer, en fait, c'était surtout un public qui était beaucoup plus jeune que le TGS classique du mois de novembre. Tout simplement parce que le TGS Onami.
Un peu moins familial. Ouais.
Voilà. Mmh. Mais l'Onami, tout simplement parce qu'il n'avait pas cet aspect jeu vidéo, science-fiction, qui attire des personnes un peu plus âgées. Du coup, Onami, on se retrouvait avec des gens qui étaient entre 15 et 25 ans, peut-être. Mais
c'est-à-dire que, bizarrement, c'était plus. Justement, c'était des parents qui accompagnaient des jeunes gens ou c'est vous tapiez moins justement dans le jeune public qui faisait venir les parents, ou parce que finalement la partie culturelle pure et dure n'intéresse pas les vieux geeks.
Non, c'est peut-être aussi que les gamers Et les fans de comics ou de SF, c'est plutôt les grands.
Ils
et
sont plus âgés, enfin, moi. Bon, après, c'est mon avis, après. Mais effectivement, oui, les fans de SF, et on le voit, Seb, très fan de SF, à la trentaine maintenant. Mais non, non, non. Mais,
merci.
Mais, non, non, mais c'est vrai que si vous voulez, bah, ceux qui aiment le manga, par exemple, bah, c'est des jeunes qui regardent du Naruto, même si je réduis pas le manga au Naruto. Hein.
Heureusement.
Oui, heureusement. Mais voilà, c'est des jeunes en règle générale. Après, c'est vrai que quand on se dirige vers la SF, vers les films, vers le cinéma, vers le jeu vidéo, bah, c'est peut-être des gens qui sont un peu plus âgés parce que peut-être un peu plus d'argent pour pouvoir acheter un jeu vidéo à 70€, parce que c'est pas rien non plus. Donc voilà, enfin moi c'est ce qu'il en ressort pour moi du Wanami de l'année dernière. C'était un public très jeune, parfois accompagné de leurs parents ou même d'amis un peu plus âgés, parce qu'il y a pas, il y avait des gens de 30 ans aussi, hein, mais il y en avait beaucoup moins que pour Toulouse Game Show.
C'est vraiment ça qui te ressort. Moi je veux dire, c'est pas des trucs comme ça qui te ressortent.
1, 2, 3. Merci,
oui.
À tous.
Oui, mais Claude, il est hors catégorie.
Non, mais c'est l'ensemble des exposants, l'ensemble des gens qui viennent et qui adressent donc un message vis-à-vis d'un pays qui vient d'être ravagé. C'était quand même énorme en soi.
Ben, disons que c'était normal. Ça aurait pas été normal qu'on fasse rien. C'est-à-dire qu'on fasse notre salon comme si bonjour, on fait un salon sur le Japon, tout se passe bien. Non, voilà. Donc on a essayé d'adapter comme on a pu, hein, avec nos humbles moyens, pour faire un petit coucou et pour voilà, pour montrer que qu'on était solidaires et qu'on pensait à eux. Voilà.
Alors pour cette édition Wanami, justement, vous avez dit qu'il y avait des invités. Alors au début, il y en a eu un, il y en a eu deux. Finalement, vous avez fait venir tout le casting complet de la franchise avec une porte des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça?
Alors en fait, c'est on va dire un coup de bol, parce que au tout départ, on voulait faire venir un mangaka avec qui un célèbre mangaka avec qui on était en discussion et qui a été qui a attendu, va donner sa réponse. Et on a eu sa réponse très tardivement, qui était donc négative. Non pas qu'il voulait pas venir, puisqu'il s'est proposé de venir au mois de novembre, mais qu'il était en retard dans son travail. Donc du coup, c'était un peu compliqué.
Ça arrive.
Voilà, donc le laps de temps qui nous restait pour le remplacer, ben, il n'était pas suffisant pour avoir quelqu'un de même qualité qui parle à du grand public. Donc on a décidé de basculer vraiment après sur le côté SF. On avait donc juste prévu à la base de faire venir effectivement un seul acteur. Au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Dirk Benedict qui était annoncé.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, je suis pas un gros menteur, hein, c'est qu'en fait, j'ai son contrat chez moi, hein, qui est signé. Il me l'a signé, le contrat, il n'y a pas de souci. C'est qu'en fait, il a entre-temps, c'est une des conditions qui peut annuler le contrat, il a signé un tournage, en fait.
Bah,
fait que, voilà.
Ça y peut. Ouais.
Et on n'est pas à l'abri sur les invités, comme je t'explique à Rafi, qu'on a annoncé là, pour la semaine prochaine, qu'il y en ait un qui se désiste parce qu'il a signé. Malheureusement, c'est la rançon du. On fait venir des gens qui sont un peu plus connus qu'avant, donc forcément ils ont encore un petit peu d'activité, du coup
surtout qu'on approche de la saison des tournages des pilotes, donc
voilà,
ça va être méga chaud. Ce qui était intéressant donc sur des invités que vous faites venir un petit peu plus souvent, est-ce que vous avez pas une crainte qu'il y ait un peu les invités obligés et qu'on se dise ah mais oui, mais c'est au TGS il y a toujours que un tel et un tel?
Non, parce que franchement, enfin moi le TGS je le fais pour moi aussi, hein, je suis un peu égoïste. Hein. Et moi je trouve que voir Marcus deux fois par an à Toulouse, c'est pas trop. Voir le joueur du grenier deux fois par an à Toulouse, c'est pas trop.
Bah si, pour les yeux un peu, pour sa chemise, ça fait un peu mal aux yeux quand même.
Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le joueur de grenier fait donc une web-série sur YouTube et il a des chemises
hawaïennes.
Voilà,
hawaïennes,
voilà, ça pète.
Non, mais voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop de faire venir des gens. Enfin, moi, je verrais pas pourquoi je dirais à ces gens-là, vous venez pas parce qu'on vous a trop vu. Enfin, il y a un moment ou un autre, ils viennent, ils sont au TGS d'ailleurs comme chez eux, hein, comme à la maison. Hein, contrairement à d'autres festivals, on leur impose pas nous de planning prédéfini. C'est eux qui nous disent, ben, on aimerait bien faire ça, on aimerait bien faire ça. Donc, du coup, en fait, c'est même eux qui nous disent, au fait, je viens, quoi. Enfin, voilà. C'est même, on les invite même plus, quoi. Et d'ailleurs, l'anecdote est là, c'est que. On commence à avoir cette image, mais pas qu'avec les invités français. Je reviens aux invités science-fiction, puisqu'au début, donc, on avait annoncé Dirk Benedict, qui s'est désisté. Donc, on l'a remplacé donc, par Cliff Simon, donc, qui joue Baal dans Stargate. Et pourquoi on en a eu plus derrière? Tout simplement, c'est du bouche à oreille. Cliff Simon en a parlé à quelqu'un. Voilà.
Ils se parlent entre eux, ces animaux.
Oui, ils se parlent entre eux. Et donc il n'y en a pas là, David Nicholl. Et David Nicholl a dit, ben moi je serai en France 15 jours avant. Je repartirai parce que je ne vais pas rester en France pendant 3 mois. Mais par contre, moi ça ne me dérange pas de revenir. Franchement, ça, moi j'aime bien rencontrer mon public français. Donc on lui a dit, ben allez, on y va, c'est parti. Et quelques jours après, David Nicholl en a parlé à un autre, à Carmen Argenziano, qui est voilà. Donc du coup, ben ça s'est fait comme ça. Et on était resté sur 3. Entre temps, on a eu le désistement du japonais. Donc on s'est dit, on peut pas rester là-dessus. On peut pas rester sur le TGS à nulle unanimité. Puis allez, on y va. Donc on a dit, on va en prendre un autre.
Et là, vous avez eu le quota féminin.
Et donc là. Effectivement.
Vous avez perdu un mangaka, vous avez gagné.
On a gagné Luciana Caro, voilà, qui a joué la Kat dans Battlestar Galactica, la nouvelle série, et qui va jouer donc. Alors je sais pas si vous le savez ou pas, qui va jouer dans la saison 2 de The Falling Skies, aux côtés de Colin Cunningham.
Mathieu,
aussi, ils se connaissent.
Qui vient lui aussi.
Mais enfin, pour vous dire, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se parlent entre eux et entre eux, ils disent tiens, on va passer le week-end en France. Presque, c'est essaye de voir si tu peux pas venir, quoi. Tu vois, c'est un peu. Mais tellement pour vous dire ça, c'est que Colin Cunningham, par exemple, on l'a eu un dernier. Lui, c'était le bon. Alors, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas s'il va se désister ou pas au dernier moment, hein, parce qu'il fait qu'il a encore de l'actualité et qu'il tourne encore. Mais lui, il va venir avec son frère, voilà, parce qu'ils veulent passer 15 jours à Toulouse. Donc ils vont rester 15 jours à Toulouse.
C'est mal tombé pour la saison, hein, là, pour au niveau de la météo.
Oui, mais voilà, Paris, il connaissait, il veut voir un petit peu le reste. Mais j'ai une anecdote sur Colin Cunningham qui est excellentissime, puisque nous, on lui a payé son billet d'avion, hein, pour qu'il vienne. Et du coup, il a dit, mais moi, j'aimerais bien venir avec mon frère. Donc on lui a dit, ben oui, mais par contre, on va pas pouvoir payer le billet d'avion, quoi. Il fait, non, mais il n'y a pas de souci. Et il nous a envoyé un mail avec son numéro de carte de crédit pour que lui prenne. Il a dit prenez-moi le billet comme mon frère, pour mon frère comme moi, comme ça on est dans le même avion. Enfin, c'est vraiment voilà, pour vous dire la confiance qu'ils sont en nous, c'est un truc de fou, quoi. Donc évidemment, ah oui, on a commandé 4 plasmas et 3 iPads. Et donc s'il vient pas, eh bien tant pis pour lui, on lui
remettra
pas. Non
mais sérieux, là c'est bon. Par contre, ils viennent pour les élections, ils vont se dire oh là là, mais quelle bande d'amateurs, c'est foncé pour réaliser le truc.
Il faut voter TGS.
ça avec plaisir. On m'a soufflé une blague d'ailleurs la semaine dernière sur si vous auriez dû faire une spéciale Seigneur des Anneaux entre les deux tours.
Ah oui, c'est pas mal. Ouais.
C'est pas mal. Donc voilà, donc on va peut-être du coup, je sais pas, vu l'heure qui avance, et on va peut-être commencer à ouvrir les vannes.
Oui, on va vous. Alors avant, on rappelle quand même qu'il y a des places, des passes de jour à gagner pour le TGS Onami. Donc vous nous appelez au 05 61 580 580, ou si vous voulez juste poser des questions, si vous n'avez pas, vous n'avez pas assez dans le pantalon pour essayer de concourir au quiz, vous pouvez poser vos questions à Rafi ou à Sébastien Laurent de l'association TGS événements.
C'est pas une asso, mais c'est pas grave.
De la société.
Il n'a pas dit association ?
J'ai cru entendre association.
Ah, merci. Oui, bah, je corrige. Société alors, c'est ça ? Société TGS événements.
D'accord.
Oui, c'est ça, voilà, les organisateurs du TGS Onami. Ensuite, donc, nous allons ouvrir les vannes puisque vous avez donné l'impression d'aimer bien les blind tests. On va vous en faire un, là. Donc, vous allez reconnaître.
J'ai oublié
d'écrire
le mien.
Je suis dans la brise, hein, parce que.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Le morceau
attends,
qui va passer. Ah, attends. Non, il n'était pas prêt.
C'est un quiz musical.
Oui.
Il y en aura qu'un, mais. Puisque vous êtes très fort sur les quiz musicaux, donc on va commencer avec ce premier morceau.
Ça la fout mal si vous ne savez pas répondre, hein.
Non, je suis désolé, mais.
Non ? Vous devriez.
Ça fait très communiste, hein, par contre.
Ah, un peu, ouais, mais
ça fait italien, quoi.
Non. On laisse passer la chanson, parce que je crois qu'il y a un auditeur qui appelle.
Non, c'est bon.
Non ?
Alors, est-ce qu'on peut avoir un indice ? Est-ce que ça vient d'une série, d'un film,
non,
d'un manga ?
C'est réel.
C'est une musique qui existe dans la vraie vie.
Comme toutes les musiques.
Ça, je ne crois pas. Ça, c'est pas possible. Ou alors, ça se vend pas, on est d'accord.
Xavier, je crois qu'il sèche là.
Ah, non, c'est quand même lamentable. C'est le.
Alors attends, on va quand même remettre dans le contexte.
Oui.
Bon, vous élargissez les allées du Diagora. Ça va pas. Vous déménagez. On va en parler après, mais vous allez au Palais des Expos. Vous commencez à vous la péter un petit peu. Vous avez les acteurs de Stargate qui arrivent et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on voit sur internet ? Que vous allez fêter tout ça au Palais Grimaldi. Oh. Alors ça c'était quoi ça, cette musique? Vous avez mal révisé votre culture monégasque, les gars.
D'accord. Ouais, non. Ouais. Ah,
c'est l'hymne
oui.
monégasque alors.
Mais
c'est
oui,
ça
mais oui.
D'accord. Oh. Voilà.
Bon. On a quelqu'un en ligne. Italien. On a quelqu'un en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Tu es
Dorian.
Dorian, d'accord. Tu nous appelles d'où?
De Pamiers, en Ariège.
Ah, ouh, bien, très bien. Alors donc.
Eh oui, les geeks viennent de loin.
C'est bien, c'est bien.
C'est bien, voilà. Donc tu es, bien évidemment, tu vas jouer avec nous et avec l'équipe du TGS Ohanami, donc avec Sébastien et Rafi. Donc.
Va vite sur Wikipédia regarder les chevaliers du Zodiac.
Oh là là, le
c'était l'indice du TGS. C'était l'indice du TGS.
Non, en fait, tu es tout seul à concourir, hein, on te rassure. Puisque, en fait, pour gagner ce passe deux jours pour le TGS Ohanami, il va falloir que tu nous donnes les noms de trois chevaliers d'or de la série Saint Seiya. Les vrais noms, pas les signes. Hein.
Oui, alors la balance.
L'étoile solitaire, le cactus mou vivant.
Alors là, il est en train de chercher sur Google.
Vas-y. Rafi, t'en as pas
juste dans ma mémoire.
Moi, j'en ai deux.
C'est tellement connu, les chevaliers du Zodiac.
Je le dis au micro ou pas?
Ouais, doucement, tu fais. Tu non, non, chuchotes, attends, tu d'accord. Laisses Dorian répondre.
Bernard Minet.
On peut même pas l'aider.
Non, c'est pas ça.
Allez, vas-y, on laisse la parole à Dorian.
Bah, c'est peut-être que j'en ai aucune idée. J'ai juste le générique de Bernard Minet en tête. Mais
alors, moi, je propose que s'il chante,
oui.
On lui offre la place.
Allez.
Allez, attention.
Bonne franquette.
Alors, en français ou en japonais?
Ah, bon. Bah écoute.
Bernard Minet.
Allez, je t'aide, on commence en japonais. Takeshi Meta, c'est ça
Takeshi Meta.
Ou tu peux le faire comme Bernard Minet en français. C'est le cosmos du cœur, ça commence.
Ça,
le cosmos du cœur. Non, mais voilà.
Allez, vas-y, on t'écoute.
Je dois le chanter en entier?
Non.
Tu peux être ridicule.
Allez,
que sur 10 secondes. Il
n'y
a pas de problème.
Je t'aide.
Ah, c'est pas celui-là qui voulait chanter.
Ah, pardon,
ça,
désolé.
Ça, c'est la deuxième saison. Il connaît pas assez. Allez, vas-y.
Les chevaliers du zodiaque. Nya, 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 nya.
Je me rappelle, ils sont pas
chers. Une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Ta, ta, ta,
ta. Allez, bravo, tu as gagné une place.
Ouais.
Voilà, merci d'avoir joué avec nous. Du sport, te reprend derrière. Du sport, tu redécroches.
On a besoin de son mail, du sport. Voilà.
Monsieur, il faut prendre le mail.
Eh bien, merci à toi d'avoir participé et rendez-vous pour le TGS Ohanami.
Donc, on l'a filé à une secrétaire là.
Alors, on enchaînait sur le Palais Grimaldi.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? C'est what the fuck. Alors, qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Alors que bon, vous étiez bien là, à Toulouse, à la belle, vous étiez bien avec vos fichas, vos prédateurs et vos.
Alors, mais voilà. Je tiens à vous rassurer. Déjà, ça ne met en aucun cas. C'est pas un choix qu'on fait de partir de Toulouse, hein, puisque le TGS il reste à Toulouse. Parce que Toulouse Game Show, ça peut pas partir à Monaco. Voilà. Donc il restera à Toulouse. Non, c'est juste une demande qu'on a eue de la part d'un de nos associés, en fait, qui va être notre associé sur cet événement, qui est la société Shibuya International, de créer un événement sur Monaco, de type TGS, avec des invités prestigieux. Tout simplement. Mais c'est un projet qui aura lieu en mars 2013. Je vois que vous êtes bien informé, c'est bien. Mais voilà.
C'est qu'on est tellement bien informé qu'on connaît le prix quand même des sandwicheries dans le quartier. C'est quand même pas super évident.
Vous allez avoir un autre public. Attention, les gars.
Non, attention. Alors, déjà,
il y a une carte premium.
On se fait
en platine.
Les prix seront identiques à TGS. Hein. C'est pour ça que voilà, on est quand même. Voilà. Les prix seront identiques à du TGS et bien évidemment on compte pas faire venir les monégasques, on est d'accord, donc ça se fait à Monaco, les monégasques sont les bienvenus bien évidemment,
et les russes aussi,
on compte bien sûr faire venir les gens. D'accord,
ça tournait à l'incident diplomatique.
Nous on espère faire venir des gens de Nice, de Toulon, de Marseille, voilà, enfin, du nord de l'Italie, tout simplement quoi. C'est, le lieu nous a paru sympa. Franchement, on a été le visiter, le Forum Grimaldi. Vraiment, faire un salon dans ces conditions, c'est quand même quelque chose quoi. Enfin, ça sera un TGS sur Monaco, mais ça sera MAGS, ça s'appellera, le Monaco Anime Game Show. Mais ça nous met en aucun cas le TGS en difficulté.
C'est un peu un retour indirect aux sources, parce que moi ça me fait penser que dans les années 90 on rêvait tous d'aller au Cartooniste à Toulon, mais c'est
oui.
pas très loin.
Enfin, tous, certains.
Oui, non, mais toi tu rêvais d'aller dans les stades.
En 90 j'étais pas né. Non, c'est pas vrai.
Le pire c'est que ça pourrait passer à la radio, ils ne se rendent pas compte.
Bon, Kevin, 8 ans, tu te vas te coucher, s'il te
plaît. Justement, de ce côté-là, il y a puisqu'il y avait le cartooniste au départ qui n'existe plus.
Mais qui revient.
Qui revient. Voilà, et je crois qu'il y a une autre manifestation à Marseille sur les jeux vidéo en février.
Il y a la JE Sud.
Est-ce que justement, de ce côté-là, il n'y a pas un risque de conflit ou de risque de parti pris?
De conflit, je ne pense pas. Il faut juste attendre la liste des invités qu'on va annoncer pour Monaco, c'est tout.
D'accord. Et on ne fait pas de la télévision, on fait de la radio, mais je peux vous dire qu'il a le petit sourire, la petite plissure de plaisir.
Vous allez en baver, ça c'est.
Les petites étoiles qui brillent, on se croirait dans un chojo.
Non, non, ça c'est d'un chojo. Là, on voit plus le piton rocheux enflammé avec le vieux maître derrière qui dit oui, vas-y, fais ton chemin. Ah, je vais vous montrer.
Le but du jeu, c'est d'avoir une ambiance TGS, c'est-à-dire vraiment décontractée, avec des invités hyper prestigieux. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi Monaco, parce que Monaco, c'est un petit écrin. Cet écrin, c'est très facile d'inviter des gens. Les gens sont beaucoup plus aptes à venir.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser. C'est l'endroit, quand même, voilà. qui est un aimant, quoi, déjà au départ.
Exactement. Quand on dit à des gens, venez passer un week-end à Toulouse.
Il faut déjà connaître.
Pas de blanche pour dire. Ouais.
Alors, voilà. Juste une question technique qu'on me pose, c'est est-ce que c'est aussi pour des raisons fiscales pour le TGS à Monaco?
TGS, je ne crois pas. C'est une société française basée à Toulouse et qui paye ses impôts en France, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, non, pas du tout.
Et si jamais Son Altesse Sérénissime se présente sur le salon, est-ce qu'il va falloir céder aux règles du protocole? Est-ce que vous allez mettre les filles avec les meilleurs cosplays de princesses en premier ou ce genre de choses?
Non, mais il est marié maintenant, le prince.
Oui, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous allez lui mettre une
tête de Sonic sur la tête?
On verra sur le moment, je ne vais pas dire oui. Mais de toute façon, comme toute manifestation qui se passe à Monaco, bien évidemment qu'on invitera Son Altesse Sérénissime à venir sur le salon, et peut-être qu'il dira oui, peut-être qu'il dira non. On verra.
D'accord. Ok. Je propose qu'on respire un petit peu.
Ouais.
Il y a une compositrice japonaise dont on est tous fans, sans aucun souci. Yoko Kanno. Bon. Oui, pardon.
Non, c'était pour faire deviner l'identité, pour voir si j'avais une bonne culture.
Yoko Kanno qui a commencé, si je me souviens bien, son premier animé, c'était un Macross qu'elle avait fait, où déjà elle mettait des musiques orchestrales. Ensuite, elle est plus dans le jazz en général et le rock. Et il se trouve que lundi, il y a un dessin animé qui est diffusé en France, qui est diffusé que depuis 7 semaines au Japon, et qui s'appelle Kids on the Slope. Donc c'est diffusé à partir de ce lundi à 19h30.
Où ça?
Sur une chaîne en 6 lettres. Que du sport ne capte pas, mais qui va devenir fou.
Chaîne en 6 lettres dont le logo est une barre de loading qui s'appelle évidemment
voilà. Live. Et du sport, tu vas être vert, puisque l'histoire, c'est des lycéens qui montent un groupe de free jazz en 1966 et de ce qu'ils ont laissé passer sur Twitter, sur YouTube et sur les autres sites de partage vidéo de la musique, ça a l'air assez haut niveau. Donc on attend ça avec impatience. Donc là, c'est un morceau Yoko Kanno, Cats on Mars, extrait de la bande son Cowboy Bebop, remixé par DMX Crew. Donc ça fera plaisir à tous les électros de la radio.
Bye.
DMX Crew qui reprend donc le morceau Yoko Kanno Cats on Mars de la bande originale Cowboy Bebop. DMX Crew, si vous ne le savez pas, avait été lancé sur le label Reflex de Richard D. James alias Aphex Twin. Et c'est pratiquement tout le label Reflex, dont Richard D. James, hein, qui sont présents sur cet album de remix. Donc c'est pour ça que on est super fan. On a d'autres places.
Ça vous change de Bernard Minet, hein.
Oui, non, mais oui.
On a d'autres places à faire gagner pour le TGS ou un ami. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont en plein. Je vous dis ce qui s'est passé quand même en antenne, c'est qu'ils parlaient de savoir, oui, Chevalier d'Or, tu inclus tel niveau, telle génération, tel truc, etc. Moi, je n'arrive plus à suivre sortie de l'Iliade. Je suis paumé. Heureusement, il y a des places donc à gagner sur Radio FMR au 05 61 580 580 pour le TGS ou un ami qui a lieu la semaine prochaine à Valma, non, la Beige.
À
voilà, bien
espace Diagora à la Beige les 28 et 29 avril.
Donc n'hésitez pas à appeler, les lignes sont ouvertes et promis juré, les questions ne seront pas trop méchantes. Enfin j'espère.
On a balancé l'info tout à l'heure en parlant de Monaco. Vous déménagez la grande édition du TGS au Palais des Expos parce que vous étiez trop gros.
Oui, j'ai fait un petit régime. Mais je...
c'est salaud.
Non, alors en fait on s'en va mais avec, on part avec, on va dire... l'accord et même les recommandations de Diagora, hein, puisque nous on est fidèles. Donc après le TGS 2011, on a fait une réunion de debriefing et il s'est aperçu que, on s'est aperçu que même avec le chapiteau supplémentaire, on était quand même très limité en capacité d'accueil. Donc il a fallu faire un choix. Le choix était très simple, c'était soit de monter un deuxième chapiteau. Qui aurait été un petit peu déporté de Diagora sur le parking de l'ancien Pandora, donc avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire avec un tunnel couvert pour pouvoir.
Tunnels couverts, faut éviter là, je pense.
Et ouais, mais
on a le tunnel de la mort déjà qui existe.
Oui, donc c'est compliqué.
On va en reparler puisque donc on a Aline qui est en ligne.
Aline,
tu t'appelles d'où?
Moi, j'appelle le plaisant du Touche à côté de Toulouse.
Ah, c'est haché, ça va être un petit peu difficile.
Aline, tu es chez un opérateur mobile qui commence, qui a 4 lettres, c'est ça?
Est-ce que tu as tout compris?
Non, j'ai pas tout compris. Alors.
Bon, alors dans ce cas, c'est moi qui pose la question, puisque tu es une fille.
D'autorité, comme ça.
Si okay. Je te dis Versailles Nobara, ça te fait penser à quel dessin animé?
Fastoche.
Versailles Nobara.
Oui.
C'est fastoche.
Je te rassure, Aline, moi je ne connais pas. Voilà.
Moi non plus.
Alors, un indice.
C'est très simple.
C'est un truc romantique.
Oui, oui.
On a trouvé le thème déjà.
Il y a Versailles dedans, non?
Oui. Ça se passe sous la Révolution.
La Rose de Versailles.
Bravo!
Gagné.
Allez, Lady Oscar en français, la Rose de Versailles, parfait.
Bravo.
Bravo. Gagné. Donc tu as gagné et tu as une voix magnifique, une voix qui va te répondre et qui va prendre donc la place. Ouais, mais bon.
De la drague en direct, ça. Chantal, si tu nous écoutes. Je sens qu'il y en a un qui va être au régime cette semaine.
Ouais. Donc, ça va être dur, hein. Mais je me prépare, je m'entraîne, hein. Tu sais qu'elle a acheté une poêle à takoyaki. Elle rêve de faire ça en plateau, en direct, lors d'un TGS.
Alors, il y aura des cours de cuisine d'ailleurs. Mmh. Au TGS.
Et tu sais qu'elle fait son émission ce mardi à 8h du matin d'ailleurs. Si vous venez en plateau ici, elle cuisine.
On peut manger, d'accord.
On peut manger, ça va être dur. Voilà. C'est de la pub et tout le reste. Donc on parlait tout à l'heure de ce problème de place.
On parlait du tunnel de la mort.
Oui, donc voilà. Donc on ne pourra pas, puisque financièrement, il faut savoir qu'un chapiteau à Diagora, on l'avait estimé nous à 40 000 euros. Le chapiteau. Au final, ça nous est revenu à 60 000 euros pour avoir un chapiteau, comme vous l'avez vu au mois de novembre 2011. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait une enveloppe de 60 000 euros supplémentaires pour avoir un deuxième chapiteau. Donc, c'était financièrement impossible. Alors, il aurait fallu qu'on retouche le tarif des billets. Donc, cela interdit. Donc, Diagora nous a gentiment aidé à partir du centre de congrès et nous a amené donc au parc des expositions.
Ah donc c'est eux-mêmes qui ont pris contact pour
oui,
vous
oui,
et
oui,
tout
oui,
ça.
C'est,
donc il y a vraiment de ce côté-là, il y a
ah oui non tout à fait, non, on part vraiment voilà que je
donc dis, ça veut dire qu'entre ces deux organismes qui relèvent quand même d'autorités très différentes, d'un côté le Grand Toulouse, de l'autre le SICOVAL, il y a vraiment
ce
des atomes
des professionnels crochus, des concurrents, mais qui voilà qui sont pas bêtes, hein, donc ils travaillent il y a un moment quand il y en a un qui peut plus, il va voir l'autre, et quand il y en a un qui est trop gros pour l'un, il renvoie vers l'autre, hein, enfin il y a un moment où il faut savoir être réaliste sur les projets pour la pérennité des salons, hein, de toute façon. Donc donc on part au Parc Expo qui va être très différent. Donc je vais faire Madame Irma si vous voulez. Je peux vous donner déjà les premières critiques qu'on va avoir. Ça va être c'est moins joli.
C'est ce que j'allais dire.
Plus surtout que depuis ça va faire la 6e édition, c'est ça?
Ça sera la 6e.
La 6e, donc ça fait 5 ans que les gens ont leurs habitudes à la beige.
Oui.
Et donc ça veut dire qu'ils ont ils sont un petit peu installés et tout, et c'est vrai que là il va falloir changer tout.
Oui, alors maintenant, il faut savoir pourquoi on vient au TGS, c'est vrai que je suis d'accord qu'on a le
Non, je ne décroche que quand je le dis.
D'accord.
N'appelez pas trop tôt, je ne décroche que quand je le dis.
Pour moi, il était important que les stands soient plus qu'il y ait des stands plus gros pour qu'on laisse la place à des assos, parce que c'est vrai que des fois mettre une asso sur 6 mètres carrés, c'est compliqué quoi, en fait. L'asso des fois elle pourrait faire beaucoup plus de choses. 6 mètres carrés, c'est compliqué. Diagora, on a une limite imposée par la taille des bâtiments. Là, on va pouvoir vraiment s'amuser, c'est-à-dire vraiment dire une asso va faire vraiment une démonstration d'un truc qui prend de la place, hop, on y met.
Donc là, clairement, il y aura de la place pour du catch, quoi.
Il n'y aura pas de catch, mais par contre, voilà, quoi. Donc, effectivement, il n'y aura plus les restaurants autour, le Tomis, la Malterie, j'en cite plusieurs comme ça, il n'y a pas de problème, pour aller manger juste à côté, mais. Voilà, vous avez le métro qui est juste à côté, vous êtes en centre-ville, il y a quand même des avantages aussi, quoi. Hein. Il y aura plus d'espace pour s'asseoir, pour circuler, les allées vont être au minimum de 4 à 5 mètres. Donc bon, ça va être quand même autre chose, je pense.
Est-ce que vous avez commencé à réfléchir au...
Est-ce que, au moins, parce que quand même, il y avait un truc qui était bien, c'était tous les petits recoins quand même de... Qui est bien? Tous les petits recoins quand même dans Agora, Diagora, il y a des amphis. Est-ce que ça, vous allez pouvoir le retrouver justement?
Alors, il n'y a pas de petits recoins, puisque dans un parc expo, effectivement, ce sont des halls. Mais on a pris la décision de louer 3 halls, de manière à ce qu'on puisse avoir... Un hall, on va dire, d'exposition comme d'habitude, avec un mélange d'assauts science-fiction, jeux vidéo, manga, et boutique, éditeur, voilà. Un autre hall où il y aura toujours des stands du même type, mais en plus avec la scène. Et enfin, un dernier hall qui sera plus à l'abri du son, en fait, où on va reproduire un amphi. Alors, ça sera pas en hauteur comme à Diagora, évidemment, mais on va reproduire un amphi de manière à ce qu'on puisse avoir une qualité. De visionnage, on va dire, des diffusions qu'on va faire, des interviews, des conférences qui soient.
Donc il y a du montage, voilà. Et tout ça.
Diagora, au final, l'amphithéâtre, qui est vraiment hyper agréable et voilà, il est magnifique, fait 508 places. Beaucoup de gens nous ont critiqué sur le fait de ne pas faire le cosplay, par exemple, en amphi. Mais quand on sait que pendant le cosplay au TGS, il y a 1500 personnes devant la salle, 508 places en amphi. Là, on va pouvoir monter de base la capacité devant cet espace de diffusion à 800 places. Et après, rien ne nous empêche, si tout d'un coup on voit qu'il y a plus de personnes, et de laisser les gens s'installer autour, debout, éventuellement assis devant plus près. Mais ça sera vraiment une... Il n'y aura pas le même décor, mais il y aura les mêmes choses que vous voyez à un TGS. C'est-à-dire des conférences dans des espaces à part, des ateliers dans des espaces qui sont séparés, des choses qui sont beaucoup plus calmes, posées, qui seront pas comme besoin de ne pas être à côté de la scène avec un concert de J-pop en même temps. Voilà, enfin,
ça, c'est bien, c'est des éditeurs qui vont vous remercier là.
Oui. Mais je suis content puisqu'on a déjà. Ça a pas l'air de refroidir les exposants, puisqu'il y en a qui sont très contents de déjà qui nous annonçaient qu'ils allaient revenir, bien évidemment. Et on a déjà, pour la première fois, des contacts avec des éditeurs qui nous disent voilà, on n'est jamais venu, on a attendu, on s'est fait représenter, mais cette année, on vient. C'est eux qui viennent en nom propre. Voilà.
Wow.
Donc là, je suis assez content. On a Dibex, par exemple, qui nous a annoncé qu'il se déplaçait sur le TGS de décembre, puisqu'il aura lieu le 1er de décembre. Donc, enfin, on commence à monter autre chose. Mais on ne perd pas l'objectif de. On le fait pour nous, c'est fait pour les fans, par des fans.
Voilà. D'accord. Et cette absence de recoin, justement, dont on parlait, alors ça va donner lieu à la question pourrie qui revient à chaque fois. Ça va donc interdire l'éventuel retour de ce fameux espace hentai.
Oui. Alors, pour en parler, effectivement, il n'y aura pas de hentai. Enfin, peut-être, je sais pas, mais rien n'empêche de faire quoi que ce soit. Enfin, on va tout ce, enfin, un espace vide. Voilà, on peut le combler avec des stands. Il y a pas de problème. Fermé. Avec du filtrage à l'entrée.
Avec mais puisque je à vois que
à Radio FMR, on aime bien ce genre de choses. Alors
avec ça... Médoc à l'entrée qui filtrera.
Oui, 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 oui. Enfin, pourquoi pas. Ou Rafi, c'est pareil. Hein.
Bon, attends, quand on va à Carrure, attends.
Dine et des lunettes noires. Je l'ai croisé déjà 2-3 fois. Hein. Sans problème. D'école.
Oh, costard, il est pas mal.
Ah, merci. Ah, tu vois.
Mesdemoiselles, n'hésitez pas à appeler.
N'oubliez
si vous voulez
pas.
Gagner un Rafi avec une place.
N'oubliez pas que les. Oui, je peux le dire. Tous les gens, à part moi, dans ce plateau, ont des lunettes. Donc ils y voient très mal.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
On est en majorité avec des lunettes, oui.
Voilà.
Effectivement.
Tout ça pour dire que non, il y a pas de hentai prévu pour le moment. Après, on ne sait pas si ça se fera ou pas. Mais je peux vous dire que au TGS Oanami, pour en revenir à celui qui a lieu dans quelques jours, il y aura Taifu Comics qui se déplace en chair et en os, à dire. C'est Monsieur Taifu Comics, de son prénom, qui se déplace avec un magnifique stand où il y a beaucoup de yaoi dessus.
C'est vrai que Taifu sont plutôt spécialisés là-dedans.
Voilà.
Oui, donc, oui, oui. Avec
ton câble
aussi,
autour du
oui,
ça c'est ça.
Bon, on va faire gagner une place, hein. Et si vous êtes une fille, vous gagnez un Rafi avec. Voilà. Donc, n'hésitez pas, 05-61-580-580.
C'est pas forcément un cadeau,
voilà,
je vous le dis.
On l'a
il
vu
fait
sur,
de super bonnes pizzas. Enfin, c'est une légende urbaine. A priori.
On l'a vu dans les photos de réseaux sociaux. Il a une belle et longue cravate qui brille aussi, donc profitez-en.
Ah. Oui. Oui, c'est vrai. Mais j'en parle pas
fosse,
souvent.
En fait, hein. C'est, tu sais, quand tu tires dessus, il y a un élastique autour du cou.
Oh, c'est pas vrai. Déjà fait, voilà.
C'est pas vrai.
Et ben, voilà, bah, ça, hop. C'est à l'antenne, bonjour, tu es...
Olivier.
Olivier, bonjour, bienvenue sur Radio FMR. Alors, tu es un garçon, donc néanmoins, est-ce que tu es intéressé par un Rafi en prime?
Ça marche aussi.
Non.
Non, merci. Merci. Okay. Donc tu as gagné 2 places au lieu d'une.
Donc,
alors qui pose la question fatidique.
Ah, j'aimerais bien poser une question comme ça pour voir. On en a parlé lors de la disparition de ce dessinateur. Je ne sais pas si tu écoutes le supplément week-end. On a parlé donc de la disparition de Moebius alias Jean Giraud. Il a beaucoup fait en France pour un manga célébrissime. Est-ce que tu peux me dire lequel?
Pas du tout. Effectivement, c'est ce manga qui s'appelait donc pas du tout.
Tu peux citer l'auteur quand même, peut-être éventuellement. Cite-nous peut-être un auteur japonais qui se réclame de l'influence de Moebius.
Et là, les gars, vous avez des questions.
On va vous aider. Il a fait un manga avec un gars qui est habillé en rouge avec
une moto.
Avec un deux roues.
Oh.
Ah.
Oui.
Évidemment.
Qui explose la moitié de Tokyo.
Qui commence par A et qui finit par A.
Dans l'auteur d'Akira, l'auteur d'Akira.
Ben bravo.
C'est aussi en 5 lettres et c'est aussi ça commence par la même lettre et ça finit par la même lettre.
Par un O, non?
Oui.
Ouais.
C'est Otomo, je crois. Ça.
Oui. Voilà.
Mais c'est bravo, tu as gagné.
Bravo,
Olivier.
Bravo.
Qui gagne également un passe 2 jours pour le TGS Wadami qui se déroulera le week-end prochain. Donc, du sport va se charger de te prendre le mail. Merci d'avoir joué.
Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions particulièrement vaches, mais là j'ai vu que franchement là il y en a plein sur Twitter qui s'excitent et qui visiblement suivent parce qu'il y en a qui disent le salon de l'érotisme a lieu le 1er et 2 décembre au hall 1.
Effectivement.
Est-ce que vous l'avez fait
en même temps? Alors c'est faux.
Ou non, est-ce que c'est pour vraiment montrer que vous êtes plus gros que le salon de l'érotisme?
Alors je peux répondre à ça puisqu'en fait c'est une information qui est erronée mais qui est vraie en partie.
Merci à Benoît Salle d'ailleurs.
En fait effectivement le parc des expositions est un parc d'expo qui comporte 8 ou 9 halls. Le TGS en fait sera donc présent sur les 3 halls qui sont donc le hall 1, 2 et 3, sont les 3 halls à l'entrée. Effectivement, à cette date là, il y a également le salon de l'érotisme qui se déroulera au hall 7, c'est-à-dire à l'opposé du parc exposition dans un seul hall. Voilà.
Sur un seul jour, je crois, non?
Je sais pas du tout. Hein. Parce qu'effectivement, cette information avait été publiée sur le site du Parc Expo au départ, et en fait, ça a été modifié ensuite derrière. Mais là, si vous allez aujourd'hui sur le site du Parc Expo, c'est bien précisé que c'est le hall 7 Donc normalement, il n'y a aucune raison. Donc ça, je parle pour les
pour les
gens, pour, voilà, pour les parents ou pour les pères de famille qui commençaient à se dire, on a une bonne excuse pour amener les enfants au TGS.
Ben c'est vrai que quand on voit le look de certains cosplayers, c'est vrai que la confusion. Voilà. Bon après, quand on est connaisseur, on sent qu'il y a aucune interaction entre les deux mondes.
Voilà.
Mais c'est vrai que de l'extérieur, quand on est sur le parking, on est dans sa voiture, on fait voilà, on écoute la radio, on téléphone. Quand on va défiler certaines personnes, on peut faire la confusion. C'est vrai.
Non, y a pas de confusion quand même. Je veux dire là-dessus. Mais c'est vrai que ça nous a au départ dérangé, clairement, hein, qu'il y ait un salon de ce type-là aux mêmes dates. Bon, maintenant, on nous a rassurés. Hein, l'entrée se fera même pas au même endroit, hein, puisque les gens passeront par l'arrière du parc expo pour aller sur ce hall-là. Je tiens à dire qu'après, on prend toutes
ça risque de faire ramener, par contre, beaucoup de monde en plus.
Ouais, non, mais enfin, bon, voilà. Nous, on a pris toutes les précautions nécessaires en termes de sécurité, de filtrage, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté du tout sur le salon. Après, voilà, il y a un salon. Mais rien n'empêche que, enfin, rien ne dit qu'à la même date du TGS, le 1 et 2 décembre, et donc, qui sera dans le hall 1, 2, 3, le salon Erotissimo, qui cache, je sais plus, hall 7, il pourrait y avoir un salon de la cuisine, hall 4, 5, un salon de l'art moderne du Tibet, hall 6. Enfin, c'est possible, hein, il arrive fréquemment que sur le parc exposition, il y ait plusieurs manifestations en simultané. Ouais.
Ceci dit, le hasard fait bien les choses, parce que s'il y a des cosplayers qui manquent d'accessoires, ils peuvent aller récupérer un fouet au hall 7, par exemple.
Ou si Kurtzman est en manque d'accessoires.
C'est la série Flanders Company, voilà.
Salutations à eux.
Oui, ben ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Alors quand on voit quand même que maintenant la BD franco-belge cartonne au cinéma, que ça soit donc sur le Marsupilami, sur l'Elfe du Cobu et tout ça, est-ce que vous allez finir par autoriser la venue d'auteurs de bande dessinée dans un style classique ?
On n'a jamais interdit aucun style sur le TGS. Il est vrai que actuellement on essaie de partir plus sur de la com. Il y a un visuel qui rappelle le manga, mais enfin, moi je serais très content de recevoir d'autres auteurs de différents horizons, de tout ce qui est BD, même si c'est pas du japonais, il n'y a pas de problème. Hein. On a eu du manhwa, on a eu du manhwa, on a eu du manga. S'il y a de la BD franco-belge, on a de la BD franco-belge.
Bah, il y a eu des auteurs français qui sont venus. Bon, qui avait un style un peu manga, mais voilà, ça reste de la BD française, quoi.
Il pourrait
y avoir des auteurs de comics. Hein. Enfin,
On va parler des choses à faire le soir, à savoir les concerts. Il y avait quand même des choses qui étaient pas mal lors de la dernière édition du Grand TGS. Cette année, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les concerts? Puisque Rafi, il n'y a toujours rien sur le site.
Oui, c'est ce que je voyais, mais.
Bah alors, qu'est-ce que tu fais?
Il est inquiet parce que.
Je regardais justement, je voyais plus d'informations plus tard.
Oui.
Encore, tu vois, là, je suis entre 4 PC et tout, et j'arrive à tout manipuler. Donc,
c'est pas encore totalement à jour, mais parce que. On a beaucoup de travail en ce moment, mais
Tant mieux.
Il y aura des concerts en journée. Il y aura pas énormément de concerts sur le TGS One Ami, hein, puisqu'on reçoit le groupe Necolight Orchestra qui était déjà venu l'année dernière pour deux concerts manga, jeux vidéo sur une journée et plus série cinéma sur la deuxième journée. Ce sont deux concerts d'une heure. Qui se passeront en journée pendant le salon, et ensuite on reçoit donc le groupe D, mais je tiens à dire
un groupe de métal, si je me trompe,
non, de visual, de visual,
visual, visual, ouais. Alors qui est très plus. Particulier parce qu'en fait à la base on ne devait pas avoir de concert parce que c'est très compliqué à gérer.
Ça je veux bien comprendre.
Voilà, mais en plus c'est très compliqué pour une raison logistique toute simple. Là, nous, la scène du TGS fonctionne de l'ouverture à la fermeture. Ce sont des gens qui ont besoin de s'installer normalement plusieurs heures à l'avance, de mettre du matériel, de faire des tests, des balances. Ouais. Nous, on n'a pas le temps de fermer pendant 4 heures le salon. Donc ça nous a porté un petit peu préjudice l'année dernière quand on a eu 3 concerts d'affilée où il y a eu une heure d'attente des fois entre les concerts alors que ce n'était pas prévu. Bon, merci à ceux qui sont restés là, ils étaient nombreux et ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Donc du coup, on ne devait pas en faire. Hein. Et puis donc Bertrand de Torpedo Productions nous propose régulièrement des artistes. Et là, il nous a dit, voilà, je tourne avec le groupe D en France. On voudrait faire une date sur Toulouse, mais on n'a pas de salle. C'est-à-dire que toutes les salles sur lesquelles ils se sont rapprochés, ils n'avaient pas de disponibilité à cette date-là. Du coup, on lui a dit oui, mais nous, on n'a pas de budget pour le faire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on lui prête la salle. La billetterie est séparée, c'est-à-dire que c'est pas nous qui prenons l'argent du concert. La billetterie est séparée, donc il fait son concert au TGS pour les... Voilà, pour s'il y a des gens du TGS qui veulent y aller, ben, y a pas de problème, hein, ça peut se faire. Mais c'est pas inclus dans le prix du billet, voilà ce que je veux dire.
D'accord.
On a quand même réussi à négocier avec eux, et je le remercie, le fait de... pour nos visiteurs VIP, qui auront le pass VIP sur le salon, de pouvoir assister au concert. Et le fait également, puisqu'ils seront là, de venir en séance de questions-réponses l'après-midi. Pendant le salon TGS Onami, ils viendront une heure répondre aux questions des visiteurs pour les rencontrer en dédicace. Voilà. Après, c'est un challenge quand même pour nous, puisque ça change pas la problématique de la logistique, qui va nous obliger à fermer le salon à 19h. Bon, ça c'était prévu de toute façon. À réouvrir les portes à 20h. Donc eux commenceront l'installation à 19h. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est d'installer un concert
avec balance et tout le reste.
Voilà. Donc nous, on rouvre les portes à 20h au niveau du hall de Agora, et ensuite on laissera encore une demi-heure fermée la porte finale, on va dire, à celle qui donne accès à la salle de concert, de manière à ce qu'ils puissent quand même finaliser les dernières balances. Wow. Donc ça va être sport, hein. Ça va être du sport, hein.
Et moi je reste tranquille. Ah,
oh.
Grand classique, hein, oui. Enfin bon, donc de ce côté-là, on a quelque chose qui est plutôt plein, qui va plutôt cartonner. En tout cas, on vous le souhaite. Finalement, est-ce que, avec le recul, vous dites, on ferait bien si vous deviez choisir entre les deux dates pour faire l'événement principal, si vous deviez en supprimer une des deux et faire un événement principal, est-ce que vous laisseriez le grand TGS fin novembre, début décembre, ou plutôt en cette saison?
Moi j'apprécie les deux, franchement. Enfin, moi si on devait en supprimer un, enfin vraiment, je parle pas de langue de bois, je supprimerais celui d'avril, évidemment. Parce que je suis habitué à celui de décembre. Quand on l'a fait, on a voulu vraiment faire un grand marché de Noël, en fait, à la base. C'est-à-dire, moi j'aime bien quand il y a le marché à Toulouse sur la place du Capitole à Noël, le marché de Noël. J'aime bien me promener parce qu'il y a une ambiance quand même, il y a un truc, voilà. C'était cette ambiance là qu'on voulait sur le TGS. Et auquel on a rajouté de l'animation, des animations avec des associations, des diffusions, des concerts, voilà. Maintenant, celui d'avril, sa transformation me plaît. C'est-à-dire que le fait d'en faire un festival, on va dire, déjà, oui, alors, normalement, il fait meilleur. Normalement, parce qu'à ce moment, c'est bon, c'est pas terrible. Oui.
Ouais, c'est vrai que là, pour cette édition, vous risquez d'avoir de la flotte, alors que bizarrement, fin novembre, vous avez eu un très beau temps, je crois.
Oui, 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 mais c'est comme ça. C'est
les aléas du temps à Toulouse. Oui.
On verra sur place au moment voulu. Mais voilà, le fait que justement, on arrive à faire, et vous le verrez hein, visuellement sur le salon, on s'est fait plaisir. Au niveau de la partie SF, on s'est fait plaisir. Avec vraiment une ambiance visuelle qui va être très différente de ce que vous avez pu voir sur le TGS. Moi je pense qu'il y aura une belle surprise pour les visiteurs. C'est-à-dire que les gens qui connaissent les deux, qui sont venus aux deux, vont avoir l'impression de découvrir un troisième salon, en fait. Voilà.
D'accord.
Moi je pense qu'il est en train de se transformer à quelque chose de différent. Mais qui renie pas ses origines, quoi, en fait. Qui renie pas son affiliation au TGS, et qui renie pas son nom. Puisque, encore une fois, Onami, c'est le printemps, c'est la fête, on se retrouve au Japon pour manger tous ensemble, quel que soit le milieu social, la classe sociale, sous les cerisiers en fleurs. Bon, là, on n'aura pas de cerisiers en fleurs, hein, mais voilà, le but du jeu, c'est de passer un bon moment ensemble en parlant de choses qu'on aime. Voilà.
Dernière question avant qu'on vous relâche, hein, puisque vous avez rendez-vous dès maintenant. Un lieu exactement le même week-end et au Parc des Expos d'ailleurs, le 11e festival Alchimie du jeu.
Oui.
Pour le coup, est-ce que peut-être à l'avenir vous verrez bien dans un truc ensemble?
Alors, moi j'y pensais. Il faut qu'on en discute. Le problème, c'est que cette année la date a été compliquée, puisque nous on nous a malheureusement imposé la date, puisqu'on n'avait pas de choix. Et on a su 2 jours après que ça tombait en même temps. On essaiera à l'avenir de se rapprocher d'eux, voir si on peut faire quelque chose ensemble. Maintenant, deux choses claires, c'est que nous on n'abandonnera pas Diagora. Donc voilà, donc il faut qu'on puisse suite avec
eux. Pour la facilité d'accès les restaurants autour.
Non, mais encore une fois, par fidélité, voilà. Enfin, Diagora, c'est une équipe. Ouais. C'est des gens qui sont là toute l'année, hein, puisque même si vous le TGS, vous le voyez sur deux jours, nous, on travaille toute l'année avec eux. Et qui nous proposent, qui sont force de proposition, qui nous disent tiens, moi je verrais bien ça, je verrais bien ça, je ferais bien ça, je referais pas ça. Mais effectivement, le jeu de plateau, moi ça me plaît, ne serait-ce que personnellement, moi j'adore ça, les jeux de société, les jeux de plateau. Donc je suis d'ailleurs très content de vous annoncer que au TGS Oanami, il y aura deux salles, deux salons dédiés aux jeux de plateau, notamment une qui sera animée par une des plus vieilles boutiques de France de jeux de plateau, qui est Jeux du Monde.
Oui, oui.
Voilà, donc franchement, moi, je suis assez content de dire que nous aussi, à notre humble niveau par rapport à ça, parce qu'on est des petits par rapport aux jeux de plateau, nous, mais on aime ça et donc on le montre aussi.
C'est Jeux du Monde qui avait fait venir le jeu de rôle à Toulouse. Ils sont installés Passage Saint-Georges. Depuis un bail, ils étaient relais des cartes à une époque.
Oui, tout à fait.
Merci Raph, merci Sébastien d'être venu, merci d'avoir mis bonheur, d'avoir donné envie de venir. Je me demande du coup si on va faire l'émission la semaine prochaine, hein. Du coup vous saurez où c'est qu'on sera. on regrette juste pas le faire en direct sur place pour différentes raisons, mais en tout cas on va se démerder pour ramener, je sais pas, peut-être soit du son, soit peut-être des images, on ne sait pas encore.
Ça passera la surprise aussi. Alors, en tout cas, merci à nos trois auditeurs qui ont gagné des passes de jour pour le TGS Oanami. On espère parce qu'ils vous salueront en disant voilà, bon, vous avez écouté à l'antenne. Ils sont très pris, voilà. Oui. Sébastien et Rafi.
Il y a des chances.
Ah oui, voilà. Nous-mêmes, on n'a pas le temps de les voir en général, donc on se démerde de notre côté.
Exactement.
Ceci dit, donc, on va vous laisser rentrer sans souci et on se donne rendez-vous. Donc, nous, on vous verra la semaine prochaine et on donne rendez-vous au public. On va beaucoup s'éclater, je pense.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et n'oubliez pas, allez voter demain.
Merci tout beaucoup. Tout à fait. Bien. Voilà, pendant qu'on est en train de saluer nos invités qui sont venus, juste un petit rappel. Oui. Bon, on leur enverra par email. Bon, on la reverra par email, donc. Tu passes à Thomas, il centralisera tout cela. On va peut-être annoncer les autres événements qui ont lieu en ce moment à Toulouse. Sachez que cet après-midi, à la librairie Album, sera présent Tony Sandoval, dessinateur des Échos Invisibles, dessinateur pardon de Doom Boy et co-auteur sur les Échos Invisibles, dessinateur mexicain qui a été salué par le jury du prix Actua BD, Conseil général des jeunes de la Charente cette année.
puisque on l'a reçu en direct hein, à Angoulême justement pour lui remettre ce prix coup de cœur dans le Super Week-end. Tony Sandoval donc sera présent à Librairie Album, c'est à partir de 15h si je me trompe, ce vendredi 27 avril au Petit Ruisseau pour les 20 ans de 6 pieds sous terre. Il y a à la fois une dédicace de LL de Mars pour son nouvel album Hors Sujet qui va arriver début mai normalement, donc je pense qu'on l'aura en avant-première, et à 18h un concert de musique expérimentale. Quand je le fais comme ça, ça fait très FIP. Samedi 12 mai, donc après le TGS One Ami qui aura lieu le 28 et 29 avril et du 27 au 29, eh ben, il y aura le festival Alchimie du Jeu. Samedi 12 mai, donc à la Librairie Album, Emmanuel Cassier et Wes Engel seront là pour Gueule Cassée. Le même jour, à la Librairie Petit Ruisseau, Régric, dessinateur de Le Franc et de Été Indien pour la Mini, sachant que Le Franc, en fait, il a repris la série. Donc Régric sera là aussi en dédicace. Le vendredi 18 mai, à la Librairie Album, Horn sera présent pour Zodiac, qui est une série qui sortira à raison de un album par mois aux éditions Delcourt. C'est le lendemain, le 19 mai, toujours à la Librairie Album, Isha sera là pour dédicacer Lucilo, tandis qu'à la Librairie Gilbert Joseph, Robert Recht et Jean-Baptiste seront là pour dédicacer leur nouvelle série Notre-Dame chez Glénat, et le premier tome s'appellera Le Jour des Fous. Et le 25 et 26 mai, il y aura le THSF et ainsi que le Sud-Web, donc ça va être méga chaud pour moi, je ne serai absolument pas à l'antenne. Et après il y a d'autres dédicaces, notamment courant juin, il y aura Thomas Verguet pour Magellan sa Librairie Album, Richard D. Nolan et Olivier Roman pour Alchimie, toujours à Librairie Album, et normalement à Terre de Légende, Jean-Luc Masbou qui sera là pour clôturer la série de Cap et de Croc. On va faire rapidement les chroniques qui nous restent sur le bras. Moi, je préfère qu'on... Qu'est-ce qu'on fait ? Je laisse Shirayuki pour la semaine suivante ?
Oui, oui.
Ouais. Ouais,
enfin, parce que c'est pas la semaine suivante, mais la semaine d'après.
Ouais, tout à fait. Donc Thomas, je crois que tu as...
Oui.
Tu as... Non, alors dans ce cas-là, je suis pas du tout sur le bon fond. Il faut que je rembobine le CD.
Un livre. Pull-up.
Tu as un livre.
Oui, j'ai un livre et d'ailleurs donc c'est édité chez l'éditeur Sonatine Édition, et je vais d'ailleurs, comme pour le premier tome, laisser du sport faire le résumé du film du livre pardon
oui, dans parce le que t'as presque la voix de basse, mais tu sens, tu vois, tu n'y es pas
dans le style.
Alors qu'il suffit d'avoir des burnes. L'œil de la lune anonyme, Sonatine Édition. C'est la nuit d'Halloween. Vampires, loups-garous, moines karatéka, violeurs en série et momies ressuscitées sont de sortie. Sanchez sent que son bar, le tapioca, va encore être redécoré. Rappelez-vous, le premier. En rouge, il faudrait déjà qu'il commence par ne plus servir de verre de pisse aux clients. Ça les fout en rogne, mais il est trop occupé à garder un œil sur la reine des ténèbres à poil dans le coma à l'étage. Au même moment, le plus redoutable tueur en série que la Terre ait porté, le Bourbon Kid, est de retour. Je croyais qu'il était mort. Une brigade spéciale de racailles s'est juré de l'anéantir, armée jusqu'aux dents. Son point faible, il est dévoilé ici. Mais patience. Benvenida a Santa Monega, petite ville moisie perdue dans les trous du cul du Nouveau-Mexique. Les seigneurs du mal vous y attendent. Ils cherchent un objet magique qu'il a perdu autrefois, l'œil de la lune. Ça va trancher, putain. Ah, ça va trancher.
Merci, Dus. C'est totalement dans l'esprit du bouquin qui... Attends, il est en train de s'étouffer. Donc voilà, j'avais chroniqué il y a quelques mois le livre sans nom par l'auteur anonyme. Voici la suite, toujours par le non moins anonyme auteur, qui s'appelle désormais L'œil de la lune. Alors bon, si vous avez aimé le 1, c'est pareil, le 2. avec, on va dire, la surprise en moins, puisque c'est bon, on va rappeler un peu l'ambiance. Donc c'est un bouquin sur un univers occulte qui mélange l'univers des deux compères cinéastes Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, pour l'humour référencé, pour le goût pour l'hémoglobine qui gicle et pour les tueurs un peu tous frappadingues du ciboulot. Ça mélange tous les genres, c'est plutôt
la c'est veine, le mélange de genres, c'est vraiment ça quoi.
Voilà, et c'est la veine plutôt Une nuit en enfer en fait. Avec voilà, c'est, on a rien à foutre, on part sur un thriller, finalement après on part sur du truc super glauque et puis on finit sur un bon bal de vampire avec avec des nanas plutôt bien gaulées, avec des décolletés énormes, etc. Là c'est pareil, alors on dirait que c'est vraiment Tarantino qui est aux manettes, puisqu'on a vraiment des moines qui sortent d'une île perdue, qui font du karaté. Il y a plein de références à l'industrie du cinéma. Par exemple, à un moment donné il y a un gars qui écoute une musique et c'est Ainsi par les Zarathustra. Et le mec, en fait, ils ont aucune culture, c'est que des trous du cul qui vivent dans une ville paumée, au milieu du désert. Et il dit, il s'est dit, ça ressemble vraiment au générique de 2001 au lycée de l'espace. Alors il y a une petite astérisque et puis en bas de page, il dit, ouais, en fait, c'est Ainsi par les Zarathustra, mais ça, Sanchez s'en foutait complètement. Voilà, c'est que des références comme ça. Alors si voilà, je disais par rapport au tome 1, puisqu'on avait vu le plus redoutable tueur en série de l'univers, qui est le Bourbon Kid, qui est un gros psychopathe qui s'était juré de buter autant de vampires qu'il pouvait, mais s'il y avait du dommage collatéral, il s'en foutait complètement aussi, donc c'était quand même un gars hyper dangereux. Tous les personnages dans le bouquin sont que des cassos. Voilà, c'est soit des mecs complètement des losers, des gars qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, des nanas qui sont des écorchés de la vie, d'autres qui ont échappé à des carnages, d'autres qui sont complètement défigurés parce qu'ils ont été balafrés à l'arme blanche. En fait, c'est que des, il y en a pas un normal. Et c'est vrai que au cours du tome 1, tu te disais c'est pas possible, il y a tout le monde, on te présente, tiens, lui c'est le super guerrier de je sais pas où, lui il vient du bled paumé, il vient ici que tous les 15 ans parce que c'est la nuit d'Halloween, il sent qu'il va y avoir un truc chelou et puis il va faire du ménage. Et puis 4 chapitres plus loin, tu t'aperçois qu'ils sont tous crevés, voilà, tu te dis mais qui c'est qui va rester pour une suite ou juste pour arriver à la fin du bouquin, parce que à un moment donné c'est pas possible. Et ben donc dans le tome 2, donc on retrouve les survivants, s'il y en a du tome 1. Bon, il faut se remettre un peu dans l'ambiance. Moi j'avais chroniqué il y a quelques temps, il y a fallu quelques chapitres évidemment pour remettre des profils sur les noms qui arrivaient. Alors s'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment encore dans la référence à Tarantino, puisque c'est déstructuré. On commence à le bouquin, ça se passe avant l'action du tome 1, et ensuite il y a un chapitre qui te dit bon, 3 ans après, et donc là on revient, 18 ans après pardon, on revoit les origines de chaque personnage qu'on voit apparaître dans le tome 1, et ensuite
qui sont un petit peu évoqués dans le tome 1 déjà, hein.
Oui, voilà.
Mais en laissant justement toute une part de doute, une part de mystère quoi, de telle manière à ce que les personnages ils soient auréolés comme ça, une espèce de mystère. De dangerosité, enfin bon, on sait pas trop quoi.
Voilà, et donc à un moment donné on voit qu'il y en a un qui a une main en fer, parce qu'il dit oui, c'est l'héritage que m'avait laissé le Bourbon Kid de suite à mon dernier affrontement avec lui. Et puis là dans le début du 2, tu vois que ça s'est pas encore passé, donc en plus c'est pas expliqué vraiment, tu dis tiens, Sanchez est tout fier de l'ouverture de son bar Le Tapioca, tu dis mais attends, mais il était déjà dans le 1, ah d'accord, ça se passe avant. Bon, alors c'est vrai que c'est pas de la grande littérature. C'est bien écrit, c'est plutôt un bouquin assez prenant, parce que si vous aimez l'hémoglobine, à un moment donné, on a vraiment on sent que l'un des personnages principaux, donc le Bourbon Kid, est adepte des tortures, parce qu'à un moment donné, il y a des raclures, encore plus raclures que lui, qui font un truc qu'il fallait absolument pas faire, et on sait tous qu'il est capable de faire subir les pires tortures à des gens qui n'ont rien fait. Et là, comme les gens, ils ont fait vraiment quelque chose qui était vraiment pas sympa, tu te dis, oh là 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 là. Eh ben, tu te dis, ouais, ça va être évoqué. Alors, bon, ils commencent à zigouiller, ils zigouillent, et puis, on sent qu'ils s'acharnent un peu plus que de raison, mais ça reste, on va dire, aux frontières de l'humanité. Et à un moment donné, il se dit, tiens, lui, il va payer pour les autres. Et là, il y a l'auteur qui part dans 2 pages de description. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Et t'es partagé, évidemment, entre l'espèce de sentiment jouissif que t'as, parce que c'est complètement décomplexé du ciboulot, c'est n'importe quoi.
quoi, t'as du vampire, du loup-garou, de la pleine lune, t'as des pouvoirs mystiques à des objets sortis de nulle part, t'as des vieilles malédictions égyptiennes, tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, ça marche aussi bien que le 1. Alors je disais oui, c'est pas la grande littérature parce que ça se lit assez vite, mais ça a au moins le mérite de proposer un spectacle vraiment vraiment, il y a vraiment beaucoup de blagues. T'as des personnages vraiment qui sortent. Tu te dis, dans d'autres circonstances, ça aurait pu vraiment faire des personnages too much, mais dans cet univers-là, ça passe très très bien. T'as vraiment, tu te prends à un moment donné de sympathie pour les vampires parce qu'ils ont vraiment des, sont tous des têtes de cons. Hein. C'est que des connards, des gens qui sont pas très intelligents, donc et tout. Et puis on sait très bien que plus tu mets des connards dans un bouquin, et c'est ça qui marche. Tu vas pas dire que des mecs qui sont qui pètent plus haut que leur cul et qui vont fumer la petite cigarette en coin, bon ça va ça. Alors que si t'as que des abrutis, c'est vrai que les abrutis entre eux, ça donne des cocktails vraiment explosifs. Et là c'est ça qui se passe dans ce tome 2, donc de la saga de la saga funéraire du Bourbon Kid, donc L'œil de la lune, qui fait suite au livre sans nom. Et justement, dans les suites, je l'ai pas noté, effectivement, désolé, j'ai pas noté le nom des suites. Je crois qu'il y a le livre de la mort. Ah voilà, le cimetière du diable, c'est le tome 3. Donc celui-là, c'est plus référencé au niveau musical, même s'il y a beaucoup de références musicales dans les deux premiers tomes.
Oui,
mais là,
oui,
ce
oui,
sera très,
ouais,
très orchestré autour de ça. Ça va mettre en scène Judy Garland, James Brown, Johnny Cash, les Blues Brothers, Kurt Cobain, Elvis Presley, Janis Joplin, Freddie Mercury, Michael Jackson.
Cool.
Faut pas faire un éventail plus large que ça. Voilà, je crois qu'il y a le tome 4 qui devait sortir justement en avril là. Voilà, donc il y a 4 tomes pour l'instant qui sont prévus, qui sont édités en tout cas, qui ont été écrits chez Sonatine Édition. On en sait peut-être un tout petit peu plus sur l'identité de ce mystérieux auteur anonyme. Il semblerait que ce soit un jeune auteur anglais qui s'est auto-édité chez lulu.com, et donc c'est un éditeur américain qui l'a repéré, qui lui a dit tiens, tu vas signer chez nous, et qui a été traduit en français. Je crois que le tome 1 a été écrit en 2007 en anglais. Voilà, donc c'est une excellente série pour ceux qui aiment l'univers de Rodriguez et Tarantino, et qui aiment bien les petits thrillers vampiresques décomplexés, qui sont évidemment à l'opposé de Twilight. Voilà, donc il est question de plein de créatures, et c'est un bon festin qui est pas de la grande cuisine, mais c'est un bon festin où en tout cas tu t'en mets plein la panse, et que c'est très 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 épicé. L'œil de la lune par Anonyme, c'est chez Sonatine Édition.
Et qu'est-ce que l'on va écouter maintenant?
Eh bien, on va écouter maintenant un extrait de la BO de Nuit en Enfer, From Dusk Till Dawn en VO, et qui est par
Les Blasters.
Voilà, The Blasters. Ouais.
Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. The neighborhood was changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl, but she made eyes of him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, and old lines drawn again. It's a dark night. someone knew the way they were. He held her so close, he asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Dark night, it's a dark night.
The Blasters, Dark Knight. Je vais finir par y arriver à le dire proprement. Bien. Du sport.
Oui.
London.
London, la police. Ce n'est pas London District, non, mais c'est une nouvelle série qui va débarquer sur Canal+ lundi à partir de 20h55 dans la case série polar, on va dire, hein, plus ou moins, quoi, de Canal+ du lundi soir. Alors là, il s'agit d'une série qui s'appelle Luther, hein, qui a été créée.
Ah oui.
Et qui est inspiré de la plume de Neil Cross, qui est par ailleurs auteur de Polar. Il est également scénariste. Il a écrit pas mal de scénarios pour la série MI5 par exemple, entre autres. Et Luther donc est une de ses créations originales portées à l'écran sur la BBC One. Alors la première diffusion, ça a été en mai 2010, et il y a eu pas moins de 6 400 000 téléspectateurs sur BBC One pour voir le premier épisode de cette série qui marche assez bien d'ailleurs, car il y a déjà 2 saisons qui ont été tournées et diffusées, hein, il faut le dire, mais ce sont des séries assez courtes quand même, des saisons assez courtes, hein, 6 épisodes pour la première saison, 4 épisodes pour la deuxième, et il y a une troisième qui est en cours de tournage ou qui est pratiquement achevée, et ils ont déjà signé pour une quatrième saison, donc ça a l'air de bien tourner. Et donc ça nous raconte les aventures de Luther, un inspecteur de la police britannique qui revient de suspension et qui va avoir affaire à des crimes et à des meurtres particulièrement sordides. Luther est interprété par Idris Elba. Idris Elba, c'est le mec qu'on avait vu, c'est le méchant qui chapeaute un petit peu tout le trafic de drogue dans la première saison de The Wire. Je sais pas si vous voyez le black là, qui d'ailleurs finit au trou, mais enfin bon, au trou il est aussi bien que dehors.
Ah bah en tout cas, la bande-annonce sur Canal, sur Canal, ouais, c'est ça.
Ouais,
ouais,
sur Canal,
ça promet, ouais. On voit que l'acteur, il a du bagou, quoi.
Ouais. Et donc, il va donc, parallèlement à des histoires qui sont plus ou moins indépendantes selon chaque épisode, il va y avoir également l'histoire de la Némésis, à savoir une enquête qui va faire fil rouge et dans laquelle, eh bien, il va être très souvent très proche de son principal suspect, interprété par Ruth Wilson. En fait, une affaire d'assassinat d'un couple, et Luther est persuadé que c'est la fille qui a tué les parents. Enfin bon, alors ça peut être aussi assez intéressant, donc cette espèce de double vision à travers l'aventure de Luther, ses petites histoires personnelles, ses petites histoires de boulot, à savoir des enquêtes à résoudre, et cette espèce de, on va dire, de croisade personnelle qui va l'opposer donc à l'actrice qui s'appelle Ruth Wilson. Voilà, donc ça c'est à partir de lundi sur Canal+ à 20h55. On a également quelque chose qui peut être une excellente surprise, on va dire, hein. Ça sera diffusé sur Sci-Fi ou Sci-Fi à partir de mardi prochain à 20h35. Ça s'appelle tout simplement Grimm. Alors tout de suite on pense aux frères Grimm, bien sûr, et il s'agit bien entendu de cela. Et c'est un petit peu la transposition, on va dire, hein. C'est un essai de transposition du monde des frères Grimm, mais dans le monde actuel. Et en fait, l'acteur principal, le personnage principal interprété par David Giuntoli, eh bien lui, il va être une espèce de détective, on va dire détective du surnaturel, parce que lui, dans le monde moderne, c'est le seul qui peut voir des lutins, des monstres, des trucs pas possibles, et donc prévenir les autres terriens et les autres humains normaux, on va dire, hein, qu'il y a peut-être des malheurs, qu'il y a peut-être des catas qui vont débarquer parce que bon bah les elfes ou les précônes ou ce que tu veux quoi, ils ont décidé de foutre le dawa. Et pour cela, en plus, il est aidé par un loup-garou, mais le loup-garou qui se tient parce que c'est un loup-garou végétarien.
Oh là là.
Tout ça, donc, c'est dans Grimm.
Pas mal.
C'est un stylé, et c'est là que ça peut être intéressant, parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas le pur inconnu qui débarque comme ça et qui, avec son pitch miraculeux, arrive à convaincre les patrons et les producteurs de chaînes. Il s'agit quand même de David Greenwald et de Jim Koof, qu'on trouve au générique de pratiquement tous les Buffy, et de Angel, puisque c'est eux qui ont un petit peu instillé cette spin-off de
Buffy. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez savoir gérer au scénario un loup-garou? Non, je me suis juste fait une centaine de vampires et quelques loups-garous.
Voilà, donc Grimm, c'est mardi prochain à 20h35 sur Sci-Fi. Sinon, il y a des inédits de séries françaises la semaine qui vient. Par exemple, la sixième épisode de Section de Recherche, Xavier Deluc, de retour sur TF1, jeudi 20h50, ou alors vendredi prochain sur France 2, bien un téléfilm, c'est plutôt c'est pas vraiment des épisodes, hein, vu que c'est quand même le format téléfilm. Boulevard du Palais, un épisode inédit, donc, vendredi prochain sur France 2. Sinon, ça peut être la franche rigolade, mais enfin, on va voir ce que ça donne, parce que c'est diffusé sur MTV à partir de jeudi prochain, 21h55. Ça s'appelle Death Valley. En fait, ça raconte les aventures de la UTF, la Undead Task Force, qui en fait c'est une équipe de flics qui sont chargés de nettoyer tout ce qui est zombies, vampires, loups-garous.
On y est toujours.
Et, ouais. Mais alors là, c'est plus dans le trip décomplexé, hémoglobine. Enfin, tu vois, genre film de série B, quoi, qui s'assume à fond les manettes, quoi. Donc, on peut jeter un œil, voir ce que ça donne, quoi, quand c'est décliné en série. Pour les plus jeunes, pas vraiment pour les tout jeunes, mais c'est diffusé sur Game One et c'est une nouvelle animation qui nous vient de chez Marvel. Bon, animation japonaise, bien entendu, c'est pas fabriqué aux États-Unis, mais ça concerne eh bien l'un des personnages, le personnage emblématique de Marvel, à savoir non pas Spider-Man, non c'est déjà fait, mais Wolverine.
Avec les Japonais, ça va, puisqu'il a un passé, il a un passif là-bas et alors, tout, ça doit pas être pas mal.
Voilà, non mais justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont s'attacher à Logan, à Wolverine donc, mais dans sa période japonaise, parce qu'il faut bien se souvenir que dans les bandes dessinées, quoi, il a eu un seul amour, un vrai amour de sa vie. Ouais. Hein, c'était avec cette chère Misoko. Misoko.
Je sais plus, mais dont le père était chef d'une triade.
Chef de Yakuza.
Les Chinois.
Voilà, donc ça va être plutôt le côté japonais, on va dire, de Wolverine dans ce nouvel animé. Donc, qui sera diffusé sur Game One.
Personnage qui avait été créé par Frank Miller. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils vont faire attention là-dessus sur l'adaptation. On sait jamais.
Je jurerais pas trop, quoi. Donc c'est vendredi prochain à partir de 17h30 sur Game One. Wolverine, des films à présent avec ce soir sur NRJ 12. Une petite soirée True Justice, Steven Seagal.
Forcément. Ouais, je baillais.
Soldat d'infortune à 20h35 et Roulette Russe à 22h20. C'est des vieux de la saison 1.
Comment va-t-il cogner ses adversaires alors qu'il ne peut plus lever la papatte?
Par contre, il lève jamais la patte. Je sais pas si t'es au courant, quoi. Il fait de l'aïkido, quoi. Alors sur TCM ce soir, par contre, ça continue, hein, la rétrospective Jacques Tourneur, avec à 20h40 le passage du canyon, Patricia Bock, Dana Andrews et Brian Donlevy. Donc Brian Donlevy qui est que tu vois toujours jouer des seconds rôles, des rôles de méchants, des trucs comme ça et tout, hein, c'est un acteur écossais mort en 72. Il a commencé par faire du muet de 24 à 28, il s'est arrêté un petit peu, puis ensuite on l'a vu un petit peu dans pas mal de films. On le voit dans la Clé de verre de Frank Tuttle en 42, on le voit dans les bourreaux meurent aussi de Fritz Lang en 47, on le voit dans Carrefour de la mort de Hathaway en 47 également, et il est également de la distribution des deux films, des deux premiers films de Quatermass Experiment dans les années 50, Brian Don Levy. Donc ça c'est dans le passage du canyon donc, mais il y a également un autre Jacques Tourneur ce soir, apparaît le passage du canyon, c'est Timbuktu de Jacques Tourneur avec en 59 pardon, avec Victor Mature, Georges Dolenz et Yvonne De Carlo. Demain, bah, il y a beaucoup de soirées qui vont être électorales, donc il y a pas le film de TF1, il y a pas le film de France 2.
Il y a un film sur France 3.
Ouais. Mais par contre, sur France 3,
ah, il y a un grand film, un classique, incontournable. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu.
Ouais, peut-être plus, on va dire parce un série B qui mériterait d'être un série A. Il s'agit de La Proie de Robert Siodmak en 48.
Je pensais que t'allais parler d'Oscar avec De Funès qui passait à 21.
Non. Avec Victor Mature, encore lui, Richard Conte, excellent, Frédéric Clarke et Shelley Winter.
Il y a un film La Proie avec Christophe Lambert, j'ai eu peur.
Non. Là, attention, c'est complètement différent, c'est vachement bien foutu. Hein, c'est une machination qui va faire pour faire un innocent coupable. Enfin, c'est vachement bien foutu, c'est excellent. Richard Conte, c'est lui qui joue le rôle de l'innocent, quoi, qui va être pris dans cette terrible machination, et Victor Mature en personnage un petit peu ambigu comme ça, tu sais pas trop ce qu'il veut, qui va essayer de manipuler pas mal de gens et tout, mais c'est très très bien foutu. Donc c'est ce soir, demain soir sur France 3, dans le cadre du cinéma minuit, à minuit pile. Sinon, demain, vous avez également sur Polar à 21h Another Day in Paradise de Larry Clark avec James Woods, Melanie Griffith, Vincent Kartheiser, Natasha Gregson Wagner, un très bon film, très bon. Moi j'ai bien apprécié ce film, pas mal. Et surtout sur lundi sur Arte à 20h40, un des films qui a posé un petit peu les bases, on va dire, qui a bien aidé pas mal de gens qui ont fait du film d'horreur par la suite, c'est Rosemary's Babies de Polanski en 68 et tout. Comment faire de l'horreur et tout, mais sans montrer d'hémoglobine, de trucs trash et tout. Alors là, ben voilà.
C'est un film d'ambiance.
C'est une leçon.
Je crois que c'est John Cassavetes qui joue dedans.
Cassavetes, ouais. Mia Farrow. Donc, pour ce film qui est diffusé par Arte lundi à 20h40. Sinon, un autre chef-d'œuvre également, mais ça, du cinéma français des années 70 sur W9, lundi 20h50, Les Bidas en folie de Claude Zidi en 71.
Ouais.
On a également ce qui peut être une bonne surprise sur Sci-Fi à 20h45, une vision un petit peu plus noire, un peu plus cauchemardesque, des contes pour nos chères têtes blondes, Blanche-Neige, le plus horrible des contes de Michael Caine avec Sigourney Weaver dans le rôle de la méchante reine, Sam Neill, Jill Bellows, Tom Davis, donc ça va, un casting plutôt pas mal. Sur Ciné Plus Classique par contre, Sabotage à Berlin à 20h40 de Raoul Walsh en 42. Alors ça c'est un film à la gloire des services secrets américains, de l'Air Force américaine, avec Errol Flynn, Ronald Reagan, Raymond Massé et Alan Hale. Tu te rends compte et tout, quoi. Bon, les nanas laissent tomber et tout parce que ça se passe à Berlin. Mardi, Trou de Justice, le retour sur NRJ 12 avec Ombre Chinoise, ou sinon on pourra préférer la soirée Jean-Pierre Mocky sur Comédie à 20h40 avec Une nuit à l'Assemblée Nationale. On est en plein dedans, quoi, hein, avec Jacqueline Maillan, Michel Blanc, Jean Poiret, Roland Blanche et tous les autres, suivi de Y a-t-il un Français dans la salle à 22h20 avec toujours Jacqueline Maillan, Victor Lanoux, Jacques Dutronc. Mais si vous préférez les bons nanars, il n'y a pas de problème, à la place, mardi prochain sur AB1, vous avez King Rising au nom du roi de Uwe Boll, ou alors vous pourrez vous tourner sur un polar anglais des années 60 sur la chaîne Polar à 21h, Le Liquidateur avec Trevor Howard, Rod Taylor et Jill St. John. C'est un film de Jack Cardiff en 65. Alors Jack Cardiff qui a une carrière de cinéaste assez courte, on va dire, hein, fin des années 50 jusqu'au milieu des années 65, pas plus. Mais auparavant, il était déjà dans le monde du cinéma parce que c'était un directeur de la photo, en fait. Et c'était un directeur de la photo qui était très bon, excellent. Hein. Howard Hawks disait de lui que c'était le meilleur directeur de la photo qui existe. Il a quand même fait la photo des Amants du Capricorne de Hitchcock. Il nous a fait African Queen de John Huston. Il a fait Barefoot Countess, la comtesse au pénis de Mankiewicz. Alors si tu te rappelles le film là, tu rappelles la photo de ce film, les couleurs qui pètent à fond les manettes et tout. Enfin c'est nickel. Bon, tu te dis bon, quel, le mec est pas mal. Par contre bon, au niveau réalisation, ça a jamais donné rien de bon. On peut regarder ce petit polar comme ça avec un petit air attentif, mais sans plus. C'est donc mardi sur Polar à 21h, mercredi sur TF1 New York section criminelle. Alors bon, vous les connaissez peut-être, mais c'est l'occasion de revoir le dernier épisode de la dernière saison, la 10e saison, c'est-à-dire là où Goren et Ems se diront au revoir. Bon bah salut, allez, on a fini quoi, c'est terminé pour nous. Dans cet épisode qui s'appelle Coup du destin, et dans lequel le guest star le plus connu, c'est James Van Der Beek. Mais l'épisode est pas mal du tout. Sinon sur Arte mercredi, Arte qui joue sur le contre-pied, on va dire. Mercredi, il n'y a jamais rien, même les autres chaînes ne diffusent pas de films de prime time ou de films de première catégorie,
Arte, il y a d'excellents documentaires les mercredis de l'histoire, très bien.
Non, il n'y a plus de mercredi de l'histoire pour le moment. Il y a pas mal de films qui sont diffusés depuis pratiquement un mois, et ce sont des films, on va dire, d'ARSM, mais quand même haut de gamme, avec donc mercredi prochain à 20h40, Le Mar Adentro d'Alessandro Amenábar. Avec Bardem, avec Belen Rueda,
c'est
quoi.
C'est pas du Jovias, on va dire.
Non, mais bon, ok, c'est du bien, c'est du lourd, quoi. Mais lourd, je veux dire, dans les sentiments qu'on peut éprouver, dans la sensation qu'on peut avoir à la sortie du film et tout. Voilà, quoi. Bah, si vous préférez, à la place, sur RTL9, une soirée Highlander qui commence par Highlander Endgame continue par le Highlander 2, libre à vous.
Libre à vous. Highlander bouse.
Mais par contre, sur Sci-Fi, mercredi prochain, 22h20, un petit documentaire sur Stan Lee, qui s'appelle Stan Lee Story, documentaire de 2010, donc assez récent, et qui est pas mal du tout, assez sympatoche, et dans lequel tu vois Stan Lee dans son salon avec sa femme derrière, qui le reprend de temps en temps quand il raconte trop de conneries, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Je sais pas si tu l'avais vu, ce truc, non. Et tout, quoi, où c'est sa femme qui précise certains trucs et tout quand Stan Lee raconte des anecdotes et tout, puis puis sa femme qui est derrière, mais si, c'est là où il y avait ah oui, d'accord, ok,
ça me rappelle quelqu'un, un couple sur les séries télé.
Alors Orange Ciné Choc mercredi prochain également à 20h40, Bienvenue au Cottage de Paul Anderson Williams. En 2008, c'est un film d'horreur anglais avec Andy Serkis, Jennifer Ellison et Stephen O'Donnell. Enfin, jeudi, sur Paris Première, deux super grands classiques du film d'action américain. Tout d'abord, à 20h40, La Canonnière du Yangtze, puis Le Dirty Dozen de Robert Aldrich. Donc, on dit pas mal. Mais jeudi, il y a également Mary Poppins sur Teva. Et sur la chaîne Polar, La Loi du Milieu de Mike Hodges avec Michael Caine, Ian Henry. Donc on a fait un remake il n'y a pas si longtemps sympatoche. Ou alors on pourra préférer sur la chaîne Action, Fausse Donne de Louis Morneau en 99 avec James Belushi, Timothy Dalton et Michael Beach. Vendredi, on a pas mal de trucs assez intéressants, dont le retour de la coccinelle sur RTL9. Alors la première mouture de la coccinelle, c'était la fin des années 60, donc Disney et tout, là, qui sort ça avec je me rappelle pas le nom de l'acteur qui était donc le pilote de la coccinelle, avec toute la série le retour de la coccinelle à Monte Carlo et tout ça. Bon, et ensuite bon, ils ont un petit peu arrêté. Ils ont repris au milieu des années 70 avec justement cette
c'était Dean Jones,
Dean Jones, voilà, qui interprétait le,
merci Google.
Et là, bien dans cette nouvelle mouture, on va dire, de la coccinelle dans les années 70, toujours filmé par Robert Stevenson, un cinéaste Disney, c'est lui qui fait d'ailleurs Mary Poppins, hein, aussi, quoi, à signaler, quoi. Eh bien, on retrouve Ken Berry dans le rôle principal. Ken Berry, c'est l'acteur principal du Chat dans l'espace, bien entendu.
Le retour de Norman Tocar.
Ça faisait hyper longtemps. Tu sais que quand même, il y en a qui ont abandonné l'écoute parce qu'ils disaient, bon, ça y est, il ne va plus le citer, là.
Je suis obligé de le citer, quoi, quand même. Et aux côtés de Ken Berry, à la place du mort, on a Stephanie Powers.
Le salaud. Le salaud.
Vendredi prochain, toujours sur Ciné Plus Premier, Assaut sur le Central 13, le film de Richet. Donc, bon, film d'avion.
Grand, bien,
grand.
Non, pas grand, c'était bien.
Et sur Ciné Plus Club, Boys in the Hood de John Singleton en 91.
Qu'est-ce que c'est ce truc?
Bah oui, à la française, quoi. À la française. Alors, je voulais faire le, j'ai foutu les deux films l'un après l'autre pour juste faire un petit retour en arrière, hein, parce que c'est le premier film de Singleton. À l'époque, il avait 23 ans.
13h44, on n'a pas le temps.
Il avait 23 ans, donc à l'époque, il sort ce film, et en même temps, pratiquement la même année, je crois, ou l'année précédente, sort l'autre film rap, quoi, avec Wesley Snipes, avec Ice-T, là, je me rappelle pas comment il s'appelle, là.
De Spike Lee?
Non, pas de Spike Lee, quoi, avec Mario Van Peebles aussi, quoi, deux Mario Van Peebles, quoi.
Les blancs ne savent pas sauter?
Non. Enfin, bref. Et c'est deux films qui montraient un petit peu, qui sortaient un petit peu le hip-hop du ghetto, qui montraient que la culture hip-hop existait et tout, et que la culture des blacks également était, donc à l'époque, on avait vachement critiqué le film de Van Peebles en disant c'était tout, enfin, c'était n'importe quoi, c'était le mauvais côté du ghetto, alors que Boys in the Hood était vraiment le bon côté du ghetto. Et c'est vrai qu'avec Richet, on a eu le même problème, parce que quand à l'époque Richet avait sorti Ma Cité va craquer, okay, c'était pratiquement à la même époque que La Haine, et Richet déjà critiquait le film de Kassovitz en disant ouais, tout ça c'est de la science-fiction, c'est pas de la vraie vie et tout, quoi, c'est raconte des conneries, moi mon film c'est vraiment ce qui se passe et tout,
qui a déjà vu une vache au milieu, qui a déjà vu une vache au milieu des HLM,
ouais, donc voilà, polémique donc pour les auteurs de ces deux films, donc Assaut sur le Central 13 et Boys in the Hood. Sinon, dans une veine vachement plus classique, c'est sur ciné plus classique, donc ça se comprend, à 20h40, Le Fanfaron, un des premiers Dino Risi en 62 avec Vittorio Gassman, Catherine Spaak et Jean-Louis Trintignant, ou alors sur Polar, Détective privé de Jack Smite en 66 de Paul Newman, avec Paul Newman, Lauren Bacall, Gene Harris et Shelley Winters. Le péplum de FX du vendredi soir, c'est Les Bacchantes de Giorgio Ferroni. Là, on est carrément du côté de Dionysos et de gens qui aiment bien faire la fête et tout, quoi. Avec dans le rôle titre, le rôle de Dionysos, Pierre Brice. Vinetou, ben oui, il est là, il a joué également dans des péplums, mais ça on le savait déjà de toute façon, quoi. Action vous propose un western vraiment italo-espagnol, donc de la bonne époque. Alors tous les gens qui ont vu 800 balles, ils vont voir ce western, ça va leur faire quelque chose, ça va leur rappeler il va y avoir des trucs sous-jacents comme ça, quoi, tout au long du film et tout, parce que bon, bien sûr, c'est filmé dans la Sierra Nevada, dans le sud, en Andalousie, avec l'acteur principal qui s'appelle Frank Latimore, mais enfin bon, ok, t'as compris que c'est un pseudo, et Nouria Tarey, donc la furie des Apaches sur Action vendredi prochain 21h. Et on termine avec un documentaire qui peut être très sympathique, c'est sur Orange Cinéchoc à 20h40 vendredi prochain. Ça s'appelle The Greatest Movie Ever Sold, et c'est un documentaire qui est signé de Morgan Spurlock, c'est le mec qui nous avait fait Super Size Me, ce documentaire où il va bouffer pendant un mois des hamburgers, et puis il va voir l'effet que ça fait physiquement. Il se fait contrôler par des toulibes et tout pour voir ce, et là bien il s'attaque au monde du cinéma et au monde de Hollywood en essayant de débusquer tous les placings qu'il peut y avoir dans les films, c'est-à-dire toute la pub qu'on nous fout dans les films et tout, quand le héros boit du Coca et l'autre qui boit du Pepsi, et puis ils vont prendre une voiture Ford et puis c'est un téléphone Motorola et puis enfin tu vois, quoi, bon voilà. Et donc ça peut être vachement intéressant, donc
le sport n'a pas été payé pour citer toutes ces marques.
Il y a un legal disclaimer, hein.
ouais mais enfin bon, c'est pour ça que j'ai cité les deux, hein, et puis j'aurais pu dire aussi Auvergne Cola, Braise Cola, il y en a beaucoup d'autres, quoi. Non, mais ça peut être le documentaire assez intéressant et tout. Puis bon, bizarrement, on en parle vachement moins que de Super Size Me, hein, qui s'attaque donc au monde de la malbouffe, où là, bon, y a un consensus assez général, même de la part de ceux qui aiment bien manger ce genre de trucs de temps en temps. Et c'est vrai, c'est le cas de pratiquement tout le monde. Et là, bon, bah, ok, c'est un sujet qui est quand même un petit peu plus délicat, parce que là, on rentre quand même dans le domaine de l'économie du cinéma. Et ça doit faire plaisir à moins de gens, je pense, quoi, parce que bon, c'est pas évident que il y ait des gens, beaucoup de gens qui ont envie que certaines choses se sachent sur la place publique, la manière dont on arrive à mettre des produits comme ça dans le film, combien ça coûte. Bon, bref, ça peut être très intéressant.
Les Simpsons, la semaine dernière, le générique d'introduction était signé Bim Plimpton aux États-Unis.
Ah ouais.
Et la Fox l'a foutu sur YouTube, et franchement, étonnant. étonnant, marrant, dans le style de Bill Clinton, mais justement c'est tellement décalé par rapport voilà, au dessin habituel.
Il s'est penché sur l'histoire du fameux canapé sur lequel sont
assis
la famille Simpson dans les pré-génériques, enfin les génériques.
Voilà, et c'est une scénette qui dure bien 90 secondes. Hein, ouais,
c'est assez long, hein, surtout que comme c'est animé à la main avec du crayonné, ça a pas dû.
Ouais, parce que en général il a qu'un assistant à côté, donc là il a dû y passer du temps pour le faire. Le générique d'hier était un hommage à Game of Thrones. D'ailleurs il reprenait tout le générique de Game of Thrones. Ok, il y a du niveau. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour dire qu'on a terminé. Thomas, tu sais qu'il y en a qui ont vu que sur Twitter qu'on faisait gagner des places, qu'il y en a aussi sur Facebook et qui se sont branchés en plein milieu de l'émission. Et ils ont loupé des choses.
Et oui, ils ont loupé. Alors, on avait dit qu'on ne parlait pas des élections. J'ai noté que nous en avons parlé 8 fois, dans 9 fois avec ce résumé. Une interview de Sébastien et Rafi du TGS. Il a été question également de hentai, de fouet, d'érotisme. Il y a eu un hymne monégasque, du quiz sur des armures, un générique en live, une lady avec une fleur, de la moto. Beaucoup de questions également de vampires, de loups-garous, de pistes de Nouveau-Mexique. Steven ne lève jamais la papatte. Il y a aussi eu des bidasses, des couleurs qui pètent et Jean singleton.
Nom d'une place pour le TGS ou un ami que vous pouvez encore gagner. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes. Retrouvez nos chroniques écrites, comme par exemple sur la piste du Marsupilami, Thor, Captain America, Fraction, ou encore le quiz consacré aux super-héros de la semaine dernière. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, écrivez-nous jusqu'à 20h sur l'adresse de l'émission et peut-être qu'on va en prendre deux au hasard pour faire gagner des places. Voilà, c'est les deux dernières qu'on fera à gagner. C'est très simple, suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr supplémentweekend.fr.
Et moi j'avais un truc que j'ai complètement oublié quoi, c'est le Disque Air Day, c'est aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui.
Hein, donc c'est organisé par les disquaires indépendants avec donc ici à Toulouse Croc Vinyl, le laboratoire Polémile Vinyl, Harmonia Mundi, Vicious Circle et également Jiber. Il y a des showcases, par exemple il y a Billy the Kill chez Vicious Circle, c'est à 17h30, et Jiber Joseph pour le groupe toulousain Ya, Animals.
Et si vous allez à Paris d'ailleurs, si vous achetez des vinyles à Paris, vous avez des tickets pour une soirée qui a en soirée normale, pour une soirée donc qui est que sur invitation, c'est-à-dire si vous avez acheté un vinyle. Et si je ne me trompe, il y a quelques morceaux, je crois qu'il y a Camille qui a réalisé des morceaux inédits et tout ça, oui, en vinyle, oui, exclusivement donc pour ceux qui ont le T-Paz le tourne-disque. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je pense qu'il aura lieu dans 15 jours.
Oui, puisque on fera un tour nous au TGS Wanami.
Donc le débrief.
Nous serons certainement avec nos t-shirts Supplément Week-end. Donc si vous écoutez l'émission, que vous êtes un fan et que vous n'avez jamais appelé, vous pouvez nous trouver sur le salon. Bon courage, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Rendez-vous et peut-être à l'espace Diagora à la Bêche, sinon dans 15 jours sur ces ondes à 89.1 MHz.
Et sinon donc la semaine prochaine, moi j'ai du Blanche-Neige aux cheveux rouges, du sport ne sait pas encore, enfin bon tout ça.
Et moi non plus, on verra.
Même heure, même fréquence, n'oubliez pas de nous écrire supplémentweekend.fr pour trouver donc le point de contact. Voilà, il reste de place. Allez, ciao, bye bye. Du sport de suite.